Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue à 404 et vous, dont le petit nom s'appelle 404 Live, parce que tout est fait en live, même la préparation de l'émission. Pour vous rappeler un petit peu le concept, ce soir, avec vous, cher public, avec les internets, on va faire un enregistrement d'un studio 404 en direct, c'est-à-dire que, entre autres, nos chroniqueurs ne connaissent pas le sujet que je vais leur proposer, et on n'a pas triché, parce que vous pouvez voir les longs coulées de sueur dans leur dos, ils ne savent toujours pas... avec les sauces, ils vont être mangés. Et donc, le déroulement va être assez simple. À chaque fois, je vais donner un sujet à un chroniqueur qui va se retourner vers son groupe. Ils auront un quart d'heure pour préparer et présenter cette chronique. Et puis, ce sera le suivant, etc. etc. D'ailleurs, mes chroniqueurs, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, respectable communicant le jour, justicier des recoins d'Internet la nuit, fan de selfies d'ascenseur et de pilosité plutôt chaotique. Applaudissements pour Monsieur Sylvain Palais.
Bonjour.
À côté de Sylvain, elle est calme pour une fille qui est arrivée 5 minutes avant le début de l'antenne. Hashtag food, hashtag féminisme. Elle est passée chez Slate, c'est le plus gros mercato de l'été. Ça sent les fonds qataris derrière. On applaudit très fort Mélissa Bounoua. En face de Mélissa, officiellement, il est chômeur, mais il écrit des BD, il fait des jeux vidéo, il conquiert Internet tweet par tweet, il fait 20 millions de projets. Bref, c'est un mec qui n'a rien compris aux avantages du chômage. Applaudissements pour Fibre Tigre. Et enfin, notre dernier chroniqueur qui, lui, travaille pour une grosse compagnie très sérieuse avec des N+1, des tickets resto, des N+2. Observateur assis de la visée du monde Apple pendant des années. Maintenant, il tabasse sur tout le monde sans discernement sur Twitter. Argument coup de poing dans des métaphores de velours. Applaudissements pour Daz. Et enfin, ils sont à côté de moi, ils sont cachés derrière les caméras. Je vous demande d'applaudir très fort nos voix, Angie et Al. Bravo. Eric et Vincent de La Gaieté Lyrique qui nous accueillent très très gentiment. Ghislain à la réal et James au cadrage. On peut les applaudir. Donc on va pouvoir démarrer cette émission. Je vous rappelle, on est tous en live, donc on est à peu près un peu trop ici à La Gaieté Lyrique. Vous pouvez nous regarder sur Internet. Merci de nous regarder sur Internet. Je vois tous ces bars où les gens se réunissent dans les villes, sur les places des mairies. On dit bonjour à Bâtonville, en Louisiane, tout ça. Ils nous regardent tous. Le monde entier réuni. Voilà.
Bâtonville.
Ah, Bâton Rouge. J'ai trop regardé True Detective et Pokémon. On va commencer tout de suite. Donc je vous rappelle, on va donner un sujet. Et on est tellement en live qu'en fait, on va en donner deux. Et ça, les chroniqueurs ne savaient pas trop. Ils vont devoir choisir, se retourner vers leur groupe. Et ils vont devoir travailler. Et le premier chroniqueur, on l'encourage, c'est Sylvain.
Oh putain. Allez, les bleus, allez.
Sylvain et l'équipe bleue. Donc voilà, derrière Sylvain, vous pouvez ajouter, agiter vos glow sticks. C'est l'équipe bleue. Voilà. Allez, ils sont chauds.
Quels sont donc les sujets?
Alors, les sujets, eh ben, c'est Angie et Al qui vont nous les donner. T'en as deux.
Ok, et j'en choisis.
Et tu en choisis un.
Ok.
Test.
En démocratie ou ils choisissent?
Non, je vais faire la démocratie.
Sujet numéro 1. Pourquoi nous allons tous devenir des cyborgs?
Et pourquoi c'est génial?
Moi ça me plaît, vous, ça vous plaît ou pas? Vas-y, le deuxième. Envoie le deuxième.
Juste pour pitcher un peu le sujet, on va aller plus loin que les wearable technologies. Et la cybernétique, c'est quand même les technologies artificielles dans un corps humain. Ça existe déjà, mais ça va aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est génial ou pas?
Ok.
Deuxième sujet, Angie Hall. Vous me le faites bien, bien bleu.
Une voix bleue, s'il vous plaît.
Un réseau social pour les gouverner tous.
Fantasme ou fausse piste?
Donc Facebook, énorme réseau qui gouverne tout. Et en même temps, on se retrouve à se loguer sur à peu près 5, 6, 7 réseaux en même temps pour des tâches, c'est un peu le bordel. Est-ce qu'à un moment, ce serait pas bien d'avoir un réseau qui fait tout? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors Sylvain, quel sujet tu choisis? Peut-être tu peux demander à ton équipe.
Si je prends le deuxième, je suis obligé de faire Facebook ou je peux faire Google?
Non, tu fais ce que tu veux. Tu peux envoyer ton équipe dans un fossé et partir sur Google+, il n'y a pas de souci.
Réseau social ou cyborg? Levez la main, réseau social, levez la main. Ok, ils sont chauds. Cyborg.
Il y a une team cyborg.
Il y a une team cyborg, j'ai l'impression. Moi, je suis plus à l'aise aussi. Ça vous va tous, cyborg ou pas? Ceux à qui ça va pas, vous pouvez partir. Cyborg. Cyborg.
Ok, bah Sylvain, tu peux t'en aller.
C'est vrai?
Tu peux te retourner avec ton équipe en tout cas. Donc tu as un quart d'heure. Le sujet des cyborgs, donc pourquoi on va tous devenir des cyborgs et pourquoi c'est génial. Il a un quart d'heure, nous on va pouvoir se réunir autour d'une petite FAQ, même de plusieurs petites FAQ.
Les gars,
tu parles un peu fort.
Alors ouais, tu dois travailler en chuchotant. Ouais, tu dois travailler en chuchotant. Première question qu'on vous pose. Quel est pour vous la start-up, le site ou le service le plus foireux de la Terre, mais qui mériterait une seconde chance? Alors, on peut parler de choses assez magiques comme Sismic, par exemple. On peut parler de Canva aussi, qui était la start-up du créateur de 4chan, qui s'est bien viandé. Est-ce que vous, il y a un service que vous aimez bien, qui est peut-être objectivement nul, mais que vous aimeriez bien revoir ou à qui vous aimeriez bien donner une seconde chance? Je vois Fibre dès le début. Donc, Fibre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le faillot de l'école, c'est un peu le mec toujours comme ça. Donc, Fibre, déjà, lever le micro, t'as déjà une idée en tête?
J'aurais vraiment aimé que Google Wave marche.
Mais c'est quoi ce
fameux
Google entre vous deux là?
Non, mais Google Plus, c'est une chose, mais Google Wave, il est disparu. On n'était pas prêts, les gens n'étaient pas suffisamment intellectuellement élevés, même pas moi, j'ai rien compris, mais je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux derrière et ça devrait être bien.
Je pourrais poser une deuxième fac, c'est quoi Google Wave? Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse ici nous pitcher correctement.
En fait, c'est tout Google Wave, c'est un Twitter, Facebook,
c'est trop
mail,
Google Wave, c'est trop, c'est beaucoup trop.
Oui.
Daz, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes bien, qui n'existe plus?
J'ai MySpace qui a popé comme ça, mais ça existe encore, en fait. Et je pense qu'il faudrait le tuer définitivement pour qu'on commence à le regretter. Sinon, comme réseau social ou start-up, là, franchement, j'ai rien en tête.
Non, MySpace, c'est pas mal. C'est vrai que officiellement, c'est
oui, c'est plutôt décédé par rapport à l'engouement des débuts.
Ouais.
Et ouais, je pense vraiment qu'à MySpace. Je sais pas pourquoi.
Ouais.
C'est mon subconscient.
Mélissa.
Je pense aussi à un truc qui existe encore.
Windows.
Quora. Parce que souvent, j'ai des questions et je me les pose et je tombe sur un lien Quora, mais il n'y a jamais de réponse parce que personne n'a pris le temps de répondre. Je me dis, merde, putain, ça aurait pu me servir.
Donc Quora, pour ceux qui ne connaissent pas Mélissa.
C'est un service où on pose des questions
oui.
Et où les gens sont censés répondre. Sauf qu'il n'y a généralement jamais de réponse.
Mais
les questions sont très bonnes. Hein,
s'ils indexent toutes les réponses, les questions intéressantes du monde, c'est déjà un bon service.
Bah ouais, mais moi, tu vois, j'ai vraiment envie d'avoir l'info à un moment. Tu vois, à un moment.
Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont un sujet? Ah, mademoiselle, est-ce qu'on peut faire passer le micro?
Delicious, c'était vachement bien. On pouvait indexer des articles pour les lire plus tard. Et oui, ça existe toujours. C'est plus très populaire.
Bah,
et ça a été remplacé par le fav sur Twitter, en fait.
Ah, il y a Pocket
pour ma part.
Donc toi, maintenant, tu faves. Alors, Delicious, on le rappelle, c'était un système qui permettait de mettre des onglets et des favoris de côté pour les lire plus tard.
Ouais.
C'est vrai que c'était très sympa, Delicious. Quelqu'un? Oui. Alors, on va faire passer le micro.
Je vais faire un combo Howell et Caramel. Un double.
Ah, c'est l'équipe de Daz. Alors, pourquoi
Howell,
Pourquoi tu collectionnes les CD tu...
Non, c'est que j'avais tous mes amis dessus et tout le monde était dessus en France. Et Caramel, pareil. Toute la France était dessus.
AOL, ouais, ce qui s'appelle America Online ou AOL Messenger spécifiquement.
Bah, c'était quand l'internet était AOL à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, donc tout le monde était sur AOL.
Très bien, AOL. Caramel, bon, à part ceux qui traînent sur Miscara pour draguer des Asiatiques, c'est pas. Ah oui. Nous aussi, on a eu une vie sexuelle sur internet. C'était Caramel. Question numéro 2, j'ai cassé mon iPhone Arcos. Question numéro 2, Team Bagel ou Studio Bagel ou Golden Moustache?
Ouh,
dis donc, il y a des questions qui fâchent.
Ouais.
Il n'y a pas des gens qui.
Fibre qui a levé son micro tout de suite.
Non, mais on a des copains chez Golden Moustache. Bah, mais Studio Bagel vient de se faire racheter, donc ils ont gagné quoi.
Studio Bagel s'est fait racheter par Canal?
Ouais, par Canal Plus.
Mais Golden Moustache appartient plus ou moins à M6, je crois.
Oui, bon.
Oui.
Bon, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt Canal ou M6?
Alors?
J'aime bien M6, hein.
T'es team M6?
Ouais, j'aime bien Top Chef, tout ça.
Ouais, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis.
Ils sont très connectés, voilà.
Daz?
Alors moi,
je n'ai
pas
très
objectif, du coup.
Oui, parce que j'ai effectivement participé dans ma jeunesse, n'est-ce pas?
Il y a 3 jours.
Mais en fait, je suis pas trop fan de ces super groupes d'humoristes là qui se regroupent entre eux pour phosphorer et sortir des blagues. Je trouve ça un peu pauvre en fait. Et du coup, je suis ni l'un ni l'autre en fait. Moi, je trouve ça un peu tristoun. Voilà.
Ok, pas de favori. Mélissa.
T'es deg. Tu voulais dire ça,
bah
tu
ouais,
vois.
Ouais, grave. Non, mais c'est vrai que je regarde jamais en fait.
Ah.
Sauf quand Daz joue dedans. Et c'est vrai que celui où Daz était assez drôle.
Ah,
donc Top Wesh sur YouTube.
La parodie Top Chef.
Mais ni l'un ni l'autre. Peut-être que parce que même sur Canal je regarde pas, donc en fait et sur M6 encore moins si ça passait sur M6. Mais les gens de Golden Moustache, non, de Studio Bagel qui sont arrivés sur Canal, je regarde pas non plus.
D'accord, très bien.
Désolé.
Donc pas d'avis. Donc il y a que toi qui poche pour Golden Moustache du coup.
Oui, bah ils sont sympas.
Alors, pendant ce temps-là, Sylvain, il ressemble à un serveur du 13e arrondissement qui prend les commandes. tu veux menu B2, tu veux boule coco, oui.
C'est raciste.
C'est bien. Il te reste moins de 10 minutes, Sylvain.
Ça va.
Sylvain, t'as vu, il prend toutes les notes. Ok, alors une question intéressante qui vient du site de Slate.fr.
Oh, très, un très site bon génial site. Que je vous encourage à visiter.
Team Slate ou Team Atlantico? Non. Alors, plus sérieusement, Slate a fait un article récemment sur le fait qu'il y avait sur Internet la culture de la viralité. Il y avait beaucoup d'images virales, il y a beaucoup de vidéos virales, mais il n'y a pas de son viral.
Viraux.
Non, il n'y a pas un son viral. Ah ah. À part peut-être le Keyboard Cat, mais qui à la base, c'est parce qu'il y a l'image d'un chat et une vidéo. Donc, je vous conseille d'aller lire cet article qui est très intéressant. Et je vous demande votre avis sur cette question. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de son viral?
Mais si, cette émission de Studio 404 va être virale. Forcément.
Oui, mais en soi, c'est pas un.
Non, mais à partir du
un
moment
contenu
où.
Viral, c'est un petit truc qui peut se répandre et qui peut se dériver, on va dire, dans tous les sens.
Je sais pas. Est-ce que tu peux vraiment être choqué par un son et te dire je vais le partager qui n'est pas de la musique?
Fibre.
Alors.
Pourquoi il n'y a pas de son viral sur Internet qui se répand comme un.
Je suis pas d'accord. Il y a des tas de sons complètement viraux. Ouais. Alors, sur l'échelle française, il y a un vieux truc qui s'appelle le donjon de Nullbuck. Le mec, il avait ses MP3 et le mec, il vit dessus. C'est-à-dire qu'il a fait des produits dérivés en pagaille et même un rayon à la Fnac sur son truc. Et sur le produit lui-même, il n'a pas gagné de l'argent, mais sur tous les produits dérivés, il en vit. Donc, déjà, ça, c'est le contre-exemple français. Et après, il y a des tas de mèmes, je peux pas vous dire, mais la chanson de l'Internet, tout ça, etc. C'est sur YouTube parce que ça se partage plus facilement sur YouTube. Il n'y a pas de métaphore facile, il n'y a pas de plateforme facile pour distribuer des sons. Mais parfois, l'intérêt, c'est juste le son.
D'accord. Voilà.
Donc moi je dis, il y a des sons viraux.
C'est bon. Moi,
je pense que le son se prête pas trop en fait à la culture Internet au sens où on l'entend, c'est-à-dire que Internet c'est d'abord un écran, c'est des trucs à lire, et du coup quand on se retrouve avec une icône avec un bouton play pour un son, juste un son dans des commentaires ou une page, je clique jamais dessus en fait. Donc
d'accord.
Pour moi l'image s'y prête plus. Peut-être que l'image est un peu plus légère aussi. C'est peut-être un problème de taille
autre,
de fichier.
Une autre piste, c'est qu'au bureau, voir une image c'est assez discret. Mettre un son c'est un peu moins discret.
Aussi ouais. Voilà. Quand on a des enceintes en plus, hein, parce que.
Bah, après avoir des enceintes au bureau, c'est que tu l'as cherché un peu quand même. Quand on est open space, on a un casque. Alors il y a des avis ici. On va commencer juste ici. Bonjour Maya.
Bonjour. Alors, mais en fait, on n'a pas du tout envie qu'il y ait des sons viraux sur Internet parce que c'est tellement les trucs qu'il y a à la radio. En fait, c'est les jingles, c'est les faux applaudissements, c'est les faux sons de vaches et ou pourquoi, de poules ou de choses comme ça.
Alors pourquoi, par exemple, ce serait marrant d'être envie, sur Twitter, quelqu'un sort un jeu de mots pourri et au lieu d'envoyer un reaction GIF, on pourrait avoir un reaction sound, par exemple, qui serait des applaudissements ou des rires enregistrés à deux balles, mais ça n'existe pas.
Mais là, alors, ça veut dire que du coup, on bosse tous avec des écouteurs en permanence parce qu'on on connaît tous des gens dans les bureaux qui ont les boîtes à sons. Tu sais, les petites machines.
C'est dur.
Et ils sont insupportables et on les tue. Et en fait, là, ce que tu proposes, c'est une arme de destruction massive et je peux pas te laisser proposer ça. Voilà.
Ok, ok. Argument la personne qui bosse en open space. En face, un autre argument de mademoiselle Nora Bézène.
Oui, Nora Boisoni, bonsoir. Non, je pense que le son est viral sur la musique. Quand on a Daft Punk qui publie 5 secondes d'un album, ou quand on a Beyoncé qui le fait, ou Julien Casablancas comme aujourd'hui, 2 minutes 12, plein d'extraits, c'est hyper viral, c'est partagé immédiatement. Et je pense qu'en politique aussi, les sons en politique sur SoundCloud, Europe 1 le fait, France Inter
ils font
le fait.
Ils font quoi sur SoundCloud, Europe 1
en fait, SoundCloud, pour le coup, il y a une plateforme où c'est pratique de partager et les radios sont dessus, les podcasts de France Inter, enfin, du Radio France sont sur SoundCloud. Et les vôtres, mais oui, bah, ouais. En plus, tu vois. Et je pense que Patrick Buisson sur SoundCloud, ça ferait vachement, tu vois, ça ferait vachement parler, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, Patrick, je me dis qu'il y a quand même, en politique, c'est quand même assez, c'est un gros truc, quoi. Ça devrait pouvoir marcher.
Très bien. Sylvain, est-ce que t'es prêt ou pas? Allez, on peut l'encourager, Sylvain qui revient. Ouh, ça va quand même très très vite, hein. Ça va très 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 vite.
Il faut que je prépare.
Sylvain, tu peux encore grappiller 15 secondes parce qu'on va proposer au deuxième chroniqueur deux sujets.
Je vais relire mes notes.
Voilà. Et ce deuxième chroniqueur, c'est Daz.
Yeah. Alors, vas-y, on voit.
Daz, NJ et Al vont te proposer deux sujets. Comment tu veux que NJ et Al te les proposent, de manière menaçante, calme?
Je voudrais une voix bleu professionnelle, ciel, hein. Une voix bleu ciel avec très peu de plosives.
D'accord.
C'est possible.
Alors, je vous passe le micro.
Sujet numéro 1.
Facile de devenir artiste.
Encore plus facile de devenir aigri.
Oh là 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 là.
Alors là, oh là, là. Là on part sur le fameux sujet du tout le monde est photographe, tout le monde est DJ, tout le monde est graphiste et les anciens.
Tout le monde fait des hamburgers.
Et les nouveaux disent vas-y tais-toi, c'est génial. Et c'est... Alors voilà, est-ce qu'il faut supporter la démocratisation de la création ou est-ce que c'est un truc qui n'a plus aucune valeur? Ça c'est le premier sujet.
Sujet numéro 2.
Imaginez le web merveilleux et flippant.
Le web des enfants.
Ça, c'est cool. Alors, il y a la mère de tes enfants qui a poussé un cri très aigu.
Daz a un enfant.
Alors,
de mon enfant, j'en ai
pourquoi le web
seul.
Des enfants? Parce qu'on a longtemps parlé du web des seniors qui arrivait. Et on parle aussi aujourd'hui du rajeunissement de l'accès Internet. Donc, des enfants qui ont accès Internet de plus en plus jeunes et aux tablettes à partir de 4-5 ans. Est-ce qu'il y a un web qui va leur être dédié? Est-ce qu'ils vont avoir leur proposé ses coutumes? Est-ce que c'est génial? Est-ce que toi, jeune papa, tu flippes? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu choisis?
Qu'est-ce que vous en dites en fait?
Parce alors, la team rose.
C'est quand même de la démocratie, hein. En tout cas, il y a un vernis de démocratie. Vous en dites quoi, vous? Il y a beaucoup d'aigris dans mon équipe, c'est parfait. Ouais. Non, mais je pense qu'on va plutôt s'orienter sur le sujet le plus facile à défoncer. En fait.
De tous artistes et encore plus d'aigris demain?
C'est ça.
Allez, c'est parti. Bonne chance, on peut les applaudir, l'équipe rose de Daz. Et nous, on va se retourner vers l'équipe bleue de Sylvain.
Absolument, absolument.
Tu as un petit look Rust Cole, je trouve, dans ton détective,
écoute, Sylvain. Tout à fait, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de la noirceur de l'âme humaine, un peu comme ça?
Écoute, je pense que le temps est un cycle, tu sais. On joue tous les mêmes rôles, le chasseur, le... Non, bon, je suis venu vous parler d'autre chose. Alors, j'ai l'impression qu'on... Si, ça va, ouais.
Non,
il
ça
faut
va,
parler un petit alors, peu comme coup, ça.
Du coup, Sylvain, tu vas nous parler...
Voilà.
De cyborg.
Tout à fait. Et je vais avoir besoin de mon accessoiriste.
Ah, donc là, c'est carrément un TED Talk.
Voilà. Et j'aimerais avoir des applaudissements à la TED à partir de maintenant. C'est parti. Merci.
Alors, par contre, contrairement à TED, tu n'auras pas 20 minutes. Tu auras un petit peu moins que la TED.
Combien de temps j'ai?
5 minutes.
Ok, ça se fait.
5 minutes. Attends, d'ailleurs, j'enclenche le chrono pour Daz. Ok.
Voilà, donc c'est le sujet des cyborgs et pourquoi demain on est tous cyborgs et pourquoi ça va être génial.
Oui.
Cette chronique s'intitule Faster, Better, Stronger.
Oh là là là.
Plagiat.
Il est 8h du matin, je me lève. Nous sommes en 2153. J'ai pas bien dormi, j'ai pas dormi du tout d'ailleurs puisque j'en ai pas besoin en fait. On n'a plus besoin de sommeil, ça sert à rien. Je me lève, je vais dans ma petite salle, je fais un check-up complet. Et là, l'appareillage m'indique que j'ai un problème de prostate et qu'il faut absolument la remplacer. Alors, ni une ni deux, je sors mon petit téléphone de poignet et je prends rendez-vous chez le mécanicien qui me conseille de mettre un petit peu plus de motule, un petit peu plus d'huile de moteur dans ma prostate.
C'est beau comme avenir.
C'est très sale. Bon, je passe rue Montgallet à acheter un petit peu de rame parce que ce matin, je me sens pas super en forme. Et j'enfourche mon Segway parce que je suis un hipster. Et en 2153, les hipsters roulent en Segway. Et ouais, ah, ouais, c'est comme ça.
Tu vas chercher dans la prospective là.
Ouais, ouais,
il y aura un revival du Segway.
Ouais, gros revival du Segway. Je croise un collègue du travail, hein, des fois ça arrive d'en croiser. Il a juste sa tête, lui, posée sur un Segway. Il a plus son corps. Mais salut Olivier, comment tu vas? Donc je télécharge le plan pour aller rue Montgallet dans mes Google Eyes. Il y a une pub. Je ferme les yeux pour qu'elle passe. Je les rouvre. Elle s'était arrêtée. Elle reprend. C'est un petit peu chiant.
Mais t'as pas téléchargé la paupière AdBlock?
Non, je l'ai pas. Okay. Non, c'est plus possible ça. Là. Ça n'existe plus. Et puis je vais bruncher. Donc je rejoins des amis dans le bar à tapas que j'affectionne tout particulièrement. Et je me branche en fait une multitude de tuyaux dans le corps. Donc saveur chips, un saveur maquis, saveur avocat. Tu sais pourquoi c'est génial, l'âme? Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut manger absolument tout ce qu'on veut, on ne grossit pas et on ressemble à un poulpe dans un hentai.
Oh,
et ça, c'est quand même assez cool.
I know where this is going.
Ça, c'est quand même assez cool.
Je vois que ton équipe aime le côté poulpe.
Mais oui, mais en fait, je reprends toutes leurs blagues les unes après les autres. C'est pour ça qu'ils sont contents.
Donc là, en fait, c'est vraiment du hive mind.
C'est du hive mind total. Là, je croise un clochard cyborg. On les appelle les organiques. Ils ont pas la thune pour mettre à jour iOS 7. Tu vois, c'est un petit peu galère. Les mecs sont pas à jour, ils sont là en train de bugger dans la rue et tout, c'est trop chelou. Donc moi, je fais semblant de pas les voir.
Je leur donne rien, je leur fais pas la charité.
Si, je leur jette quelques bitcoins. Et en fait.
Ça vaut plus rien.
Et là, ça vaut plus rien, non, c'est. Et en fait, je vais à une soirée parce que j'adore choper en soirée avec mes potes cyborgs. Ouais. J'arrive dans la soirée. J'ouvre la porte et là je regarde et au-dessus de la tête de chacune des personnes il y a un pourcentage de compatibilité. C'est super simple.
Donc t'as un Tinder en réalité.
Ah mais non, mais je t'ai pas dit en fait, Facebook terminé, ça n'existe plus.
Ah bon?
Ah non, c'est Tinder qui relie tous les humains maintenant.
Tout Tinder.
Ah ouais, les mecs se chopent avec les pourcentages et tout. Et
tu stades avec la tête comme ça,
comme ça. Petit clin d'œil et c'est parti, tu vois, voilà. Donc voilà. J'ai chopé dans le petit bar, mais j'avais envie d'entrer seul ce soir. Parce que même quand on est cyborg, on a envie parfois d'être un petit peu seul. On a un petit cœur qui bat. Même si c'est un cœur mécanique avec des pompes à iode, bien sûr. Donc je me mets dans mon lit et puis je recharge mes batteries. Et puis comme je dors pas, je mate un petit porno. Un petit porno zoophile. C'est un mec qui met sa cyberdique dans un grippin.
C'est un défi, t'as obligé à dire ça.
Mais
c'est
dégueulasse. Dans un grippin, tu peux faire une bon,
ouais. Ouais. Non, mais il est tout seul là sur celui-ci. Et le problème avec tout ça, c'est que je regarde les infos aussi, et là, il y a des hackers en fait qui se sont attaqués à la société et qui sont en train de lever une armée de mecs qui, contre leur volonté, se battent pour eux. Et c'est un petit peu le genre de problème qu'on peut avoir, hein, malgré le côté très utopique que je vous ai raconté. C'est-à-dire
parce que c'était utopique.
Ah ouais, complètement, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va avoir, quelques soucis. Ça va améliorer bien sûr notre physique, notre mental, mais ça va remplacer une société de savoir qui est actuelle par une société de liens. On n'aura plus besoin d'apprendre. Ouais. On aura juste à se connecter à Internet et à se connecter aux autres gens pour partager un savoir collectif.
Et ça c'est enthousiasmant.
Pas tellement. Ah, bon. Pas tellement. Mais je compte quand même sur l'humain et sa manière de réfléchir et de réfléchir sur sa condition pour toujours garder un petit peu de justement d'être humain à l'intérieur de lui.
Oh, c'est beau.
N'est-ce pas? Parce que finalement, on a beau être tous des cyborgs, on a quand même une âme.
Oh putain.
Ah là là. Ça c'est fini. On peut applaudir l'équipe bleue déjà.
Merci les bleus, merci.
Donc arrête-moi si je me trompe et dites-moi ce que vous en pensez après, Mélissa et Fibre. On sent poindre quand même un manque d'enthousiasme. Même si tu dis c'est génial, il y a un peu en second degré pour rester un peu détaché de tout ça quand même. Vous n'avez pas l'air si beauté que ça par la vie cybernétique.
Écoute, après un sondage rapide, 50% des bleus sont prêts à se mettre des implants dans le corps.
Ah oui, mais oui.
C'est pas beaucoup parce que c'est juste des implants.
Mais ça existe déjà aujourd'hui d'une certaine manière.
Ça existe déjà. D'ailleurs, c'est autorisé. Les implants sous-cutanés sont autorisés aux États-Unis.
Mais c'est vrai qu'on a vu des implants. On a vu là, ils viennent de montrer une femme bionique. Donc tout le bas du corps, en fait, ce sont des jambes qui sont contrôlées par la pensée. Il y a des membres bioniques qui vont pouvoir se connecter à notre système nerveux.
Ouais.
Des organes synthétiques, si je ne m'abuse.
C'est un truc qui développe vachement de contrôler des objets avec les ondes cérébrales. C'est-à-dire qu'on a réussi à connecter deux singes entre eux à 150 km à distance et le cerveau du premier singe arrivait à faire bouger les bras du second.
Ah, c'est vrai?
Ouais!
Ça va vraiment
ça
être sympa.
Ça te fait penser à des trucs ou pas?
Non.
Non.
Non. Fibre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça a l'air assez, enfin, ça a l'air assez inévitable quand même que la technologie disparaisse et s'intègre de plus en plus à nous? Donc, le côté cyborg fantasmé ou le côté cyborg auquel on ne s'attend pas est assez inévitable. Est-ce que ça t'enthousiaste ou est-ce que
Alors, ça te fait peur? J'ai deux idées par rapport à ça. Oui. La première, c'est que, en fait, l'ère du cyborg, elle existe déjà. Parce que aujourd'hui, en France en tout cas, et dans les pays occidentaux, pas le tiers monde quoi, quand vous naissez, vous avez plus de chances de réussir dans la société si vous naissez avec une tare génétique. C'est-à-dire que si vous êtes asthmatique, si vous êtes prédisposé à être gros ou quelque chose comme ça, eh bien, on va prendre soin plus de vous que d'un être en pleine santé. Donc vous allez avoir plus d'attention.
Là, c'est le moment fibre tigre. Hein. C'est le moment où on est dans la tête.
Là, c'est mais on sait pas trop d'où elle vient.
Et du coup, en fait, souvent, si vous avez la volonté de, on va dire, à la fois avec cette aide extérieure et à la fois de surmonter votre handicap génétique, dans la société, on n'est plus dans une ère de darwinisme, donc de sélection naturelle, mais on est dans une ère de sélection culturelle. Donc en fait, le cyborg existe déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième idée, c'est de dire que, je l'ai noté, oui, l'âme.
Oui.
Tu n'as pas envie de mourir?
Non.
Bon. En fait, ce qui fait l'âme, c'est pas ton bras ou tes pieds, c'est ta personnalité, ton cerveau. Or, si on rajoute de la RAM dans un cerveau, ta capacité à comprendre le monde, elle sera différente de ce que tu es actuellement. Donc ouais. En fait, tu vas disparaître. Enfin, le l'âme qui est ou qui aurait pu être naturellement, il va disparaître au profit d'un âme qui sera différent. Et je pense que face à cette réalité, les gens ils vont dire. Je ne veux pas aller plus loin dans l'esprit humain.
Bah, je suis pas totalement d'accord parce qu'on est tout le temps différent de la seconde d'avant puisqu'on fait des choix. Et
oui, mais on est dans une transition continue. Tandis que là, t'as on va dire un saut quantique.
Il y a un gap.
Voilà, voilà. D'un coup, paf, tu peux apprendre une encyclopédie complète. Or, si t'apprends une encyclopédie complète, tu vas forcément avoir une vision du monde qui sera différente de celle que tu as aujourd'hui.
Tu crois pas que technologiquement ça va se faire progressivement ça?
Bah ça peut se faire, mais je veux dire une encyclopédie ça tient sur, tu peux en mettre 160 sur une clé USB, donc voilà.
Oui. Mélissa, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi?
Bah, c'est vrai que cette idée qu'on va vouloir à tout prix être parfait va faire que. Est-ce qu'on aura encore notre personnalité? Parce que finalement, avoir nos névroses, se dire j'ai pas assez de mémoire, merde, comment je vais faire? Bah, on compense par autre chose et ça fait notre personnalité. Et du coup, je pense pas que ça va lisser toutes les personnalités, mais ça tendrait, disons, à rendre tout le monde meilleur, tout le monde parfait et donc moins distingué.
Ça dépend parce qu'il y a des courants philosophiques qui estiment que tu te définis par tes actes et non pas par ta mémoire. Donc c'est encore autre chose.
Oui, mais ça changerait tes actes d'être parfait, tu vois.
Si tes actes sont toujours meilleurs parce que physiquement t'es plus fort, intellectuellement t'es plus fort, t'es toujours connecté, tes actes changent.
Ouais.
Donc Mélissa, ça t'enthousiasme? C'est inévitable ou tu vas éviter?
Je serais curieuse de voir l'évolution parce qu'en fait là on flippe tous parce qu'on fantasme tout
là,
et on se dit ça va être on va faire ça. Et en fait la progression, comme dit Sylvain, sera. Au fur et à mesure, et je pense qu'on va pas s'en rendre compte. De la même manière qu'on est déjà greffé à nos iPhones et on se disait non, jamais, et en fait on dort avec maintenant. Donc.
Et toi, Sylvain, en fait, finalement.
Moi, je suis assez chaud, moi. Ouais. Et puis, on se disait que de toute façon, avec les Bleus, on se disait que Google, ils étaient très très chauds aussi là-dessus. Oui. Là. Parce qu'ils ont investi dans la robotique et en même temps.
Qu'est-ce qu'ils font Google?
Google, c'est un peu toi en même temps, Sylvain.
Ouais, ouais. J'aime bien. Je les aime bien.
Il
ouais.
aime Google Plus.
Et en fait, ils ont racheté pas mal de boîtes de robotique.
Alors c'est vrai qu'en plus ils ont acheté plusieurs boîtes et
qui font des choses différentes. C'est-à-dire des gros robots militaires qui transportent des charges, mais aussi des bras articulés qui ont notamment fait les prises de vue de Gravity sous fond vert machin. Ils ont racheté une boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Enfin, ils essayent d'avoir toute une panoplie du truc et en parallèle, parce qu'apparemment c'est en parallèle, c'est pas vraiment conjoint, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Calico.
Et qui, elle,
est à la recherche de la curation de toutes les maladies du monde, c'est-à-dire à la recherche de l'immortalité.
Tout simplement. Ouais, Fibre, tu voulais dire quelque chose?
Non, si j'étais Google et que j'avais de l'argent infini, évidemment, la question que je me poserais, c'est comment vivre éternellement? Et peut-être ils vont se l'acheter, ça.
Aussi, parce qu'un des fondateurs est touché, je crois, par Alzheimer, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont fondé Calico, c'est qu'il veut détruire Alzheimer avant d'être atteint par la maladie.
C'est un hobby
comme un autre. Il suffit d'avoir un garage et du temps. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont envie de réagir par rapport à ça?
Les Bleus, vous avez des trucs à dire.
Oui, du coup, c'est un avenir très proche. Au-delà du côté cyborg que tu nous as expliqué, qui est très fantasmé avec beaucoup de parties mécaniques, est-ce que vous porteriez des lentilles Google? Est-ce que vous feriez greffer une puce RFID comme certains enfants de milliardaires sont greffés des puces RFID quand ils sont kidnappés? Est-ce que vous auriez un corps artificiel dans votre corps si l'offre vous intéresse? J'ai entendu un oui là-bas. Qui a dit oui? Si, si.
Je pense qu'elle veut.
Alors
pas
oui,
argumenter.
Oui, pourquoi?
Pour avoir du plus.
Pour avoir du plus. Mais pour, intellectuellement, physiquement.
Bah, ça dépendra de l'offre. Mais effectivement, oui. Si déjà physiquement, je pense déjà dans un premier temps. Moi, le truc le plus là que j'aimerais là dans l'immédiat, c'est j'ai une gamine qui a une gastro, elle est sous médoc et j'aimerais juste savoir si on pouvait avoir un petit implant à l'intérieur de son corps qui me dirait bah c'est bon, jeudi c'est terminé, elle sera guérie. Et juste capter ses mensonges quand elle ne veut pas manger et qu'elle fait semblant de vomir parce qu'elle est encore malade. Donc un implant comme
donc en fait tu veux même pas te greffer toi, tu veux greffer direct ta fille.
Genre, ma gamine, mais par contre le premier implant officiel en France autorisé sur les gamins, mais je fonce. Je sais pas savoir où elle est, ce qu'elle fait, il y a pas de souci.
Monsieur, vous voulez réagir peut-être? Attendez, prenez le micro. Alors une réaction encore dans le public.
La première chose que tu dis, c'est je vais fliquer quelqu'un avec ça.
Mais c'est d'ailleurs la première application des puces RFID, c'est de localiser les gens, les objets.
Ouais, localiser en cas de danger. Là, tu veux fliquer ta fille.
Oui.
Tu veux savoir aussi avec qui elle sort, parce que du coup, tu vas passer un coup de fil aux parents de ta fille, aux parents des copains de ta fille, pour lui dire, sinon, la puce RFID de ton fils, il est au même endroit que la puce RFID de ma fille. Enfin, je veux dire, et si toi, tu peux le faire, le mec qui t'a vendu l'implant, il peut le faire aussi.
Ah oui, alors ça, c'est sûr. C'est sûr. Et bon, la NSA, de toute façon, on sera copains avec eux.
Enfin là, voilà.
Copains forcés, mais copains quoi qu'il arrive.
Juste pour dire, moi c'était non quoi. Pour moi, finir. Je m'implante rien.
Toi rien, tu restes 100% bio.
J'ai assez de ça que je peux encore jeter.
Ok, 100% bio, 100% carb free.
Ouais. Enfin, j'attends de voir, on en discute dans 40 ans quand je suis tout cassé de partout.
Ouais, on verra. On en discute avant 40 ans. Pendant 4 ans, on en discute.
Non, mais ouais. Là, moi c'est juste c'est le problème. C'est la cybernétique qui te la fournit et pourquoi?
Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Fin du premier débat. On peut applaudir en tout cas l'équipe bleue, l'équipe des robots. Je pensais que t'allais faire une danse de robot, Sylvain, un truc comme ça. Alors l'équipe rose qui fait genre qu'elle a pas entendu le gong. Regardez bien. Ils sont droits dans leur boîte, ils font genre. Alors Daz, tu veux revenir vers nous et pendant que tu reviens vers nous, on va nous lancer. On va proposer un troisième sujet. Ah. M-E-L-I-S-S-A, Mélissa. T'es prête?
Ah putain.
Allez.
Est-ce que le journalisme est voué à disparaître sur Internet?
Jamais. Jamais.
Allez, Angie et Al, vous nous proposez deux sujets.
Sujet numéro 1.
Pourquoi le genreisme obsède le net?
Alors que le net devrait s'en foutre.
Donc juste pour revenir au fait que toutes les questions autour du genreisme, la sexualité et du féminisme ont l'air d'exploser depuis quelques mois, alors qu'il y avait longtemps eu des fantasmes d'un internet qui allait peut-être effacer les questions de race et de sexe et que tout le monde sera un peu égaux sur internet. On a l'impression que c'est un peu l'inverse en ce moment. Ça, c'est le premier sujet.
Sujet numéro 2.
Après la slow food,
militons pour le slow geek.
Le slow geek, qu'est-ce que c'est? C'est rationner sa pratique du geek. Donc rationner sa consommation d'internet, ne plus sortir son smartphone, faire du phone stacking pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, ne pas se connecter nerveusement juste pour regarder l'heure, des choses comme ça. Bref, ralentir notre consommation aujourd'hui qui est un peu boulimique.
Je vais questionner mon équipe. La team attention, la team verte. Je fais appel à votre savoir.
Genreisme ou slow geek?
Genreisme 2. Ah putain, moitié gender, moitié slow machin. Pas.
J'ai rien compris à ces sujets. Vous avez le droit de l'avouer aussi.
Non, mais gender, ça va être un truc de troll. Après, toi, tu vas raconter des saloperies pendant le débat, tu vois. Donc, j'ai pas envie de me faire troller, tu vois.
C'est en plus, il pourra pas répondre, ils sont en train de préparer la sienne.
C'est vrai, Fibre, que.
Je pense que je vais prendre le numéro 2.
Numéro 2, donc.
Pas de débat de troll aujourd'hui. Désolé.
Ok, d'accord. Donc, sujet numéro 2 pour toi, Mélissa. Après la slow food, militons pour le slow geek et maîtrisons un peu notre consommation. On peut encourager Mélissa et l'équipe des Verts. On se retrouve dans un quart d'heure, même si ma notion du temps, c'est un peu... j'ai un peu un quart d'heure CFA, comme les Français CFA, ça vaut pas vraiment 15 minutes. En attendant, on va se retrouver vers toi, Daz.
Oui.
Ça s'est passé comment avec l'équipe des Roses, du coup?
Eh bien, écoute, ça phosphorait pas mal. Très bonne équipe, une équipe droite, intègre, une équipe que j'apprécie. Une équipe aussi qui est plutôt d'accord avec un point. c'est que, enfin, en gros, c'est tous des aigris derrière. Voilà. À l'exception d'une personne.
On rappelle le sujet quand même.
Oui, alors rappelle-le parce que je l'ai oublié.
Facile de devenir artiste.
Encore plus facile de devenir aigri.
Eh bien oui, figurez-vous que... C'était mon intro. Alors, il va falloir qu'on replace historiquement, n'est-ce pas, l'art. Donc j'ai prévu une chronique en 2 heures, hein, donc en deux volets de 2h30, pour replacer dans le contexte, n'est-ce pas, contemporain et remonter éventuellement à l'époque des dinosaures, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'il y a d'artiste.
On peut appeler Alain Decaux aussi, si tu veux, pour faire la voix.
Il est vivant?
Ah, je sais pas.
Je me trompe tout le temps. Est-ce qu'Alain Decaux est vivant?
Il est avec Sim, je crois.
Il est Sim est mort.
Ah, merde. Bon.
Pour de vrai.
Allez, regarde.
Alors. Oui, en fait, non, il faut donc facile d'être artiste, encore plus d'être aigri. Donc, comme je disais, il faut revenir à la base et se rappeler en fait ce que c'est qu'un artiste. Donc, je vous propose de me tourner vers mon équipe, n'est-ce pas, oui. Qui a potassé. Qu'est-ce qu'un artiste, Marianne?
T'as potassé ton équipe, toi.
Alors, c'est un artisan qui excelle dans son travail, qui a acquis une technique, une maîtrise d'exécution, un savoir-faire qui lui permet de reproduire habilement un modèle ou même d'en inventer de nouveaux.
Merci Marianne.
Donc c'était ta chronique, c'est fini.
Voilà.
Merci Daz. Alors,
donc non, avec cette petite définition, on rappelle ce que c'est qu'un artiste. Donc un artiste à la base, c'est quelqu'un qui maîtrise un art. Okay. Voilà. Donc qui a normalement travaillé un minimum pour être capable d'exercer cet art-là et dont le travail doit être reconnu par... entre autres, le temps passé à apprendre, finalement. Hein, quand, à l'époque des dinosaures ou des mammouths, tu décidais pas d'être artisan-chasseur, par exemple. Ça, c'est pas parce que tu trouvais une lance que t'allais chasser le mammouth en disant « c'est bon, je ramène à manger ». D'accord ?
D'accord.
Parce que tu pouvais te faire tuer, en fait. Et avec la technologie,
ouais.
Ce qu'on constate, finalement, c'est que cet art-là...
Tu fais un saut du dinosaure au laptop, c'est ça ?
Ouais.
Enfin, un grand saut.
Ça s'appelle une ellipse, hein, c'est très... Ah,
c'est
voilà.
C'est une fucking ellipse.
En fait, avec la technologie, toute la partie qui demandait un minimum de travail disparaît. Et donc, en fait, n'importe qui, maintenant, peut dire effectivement qu'il est artiste. Donc là, en gros, hein, c'est vous avez une application piano sur votre iPhone, bon ben vous êtes pianiste. En gros, hein. Non, mais par exemple, tu prends une appli comme GarageBand.
GarageBand, qui est l'appli musicale d'Apple.
D'Apple, l'appli pour noob, hein, parce que les vrais musicos utilisent Logic, on le sait tous. Ouais. GarageBand, en fait, sur la partie iPad, enfin la version iPad de GarageBand, te gère les accords. En fait, t'as plus qu'à taper comme un adolescent. Comme un adolescent, ton clavier virtuel, et puis tu sors des mélodies qui se tiennent. C'est ça, en fait, le plus énervant, le
d'accord.
plus crispant. Donc, voilà, tout le monde est artiste, tout le monde s'improvise artiste, tout le monde a un smartphone, tout le monde connaît Au clair de la lune et sait jouer sur un clavier, bon, tant pis. On sait tous le faire. N'importe qui peut jouer jeu interdit à la gratte. C'est pas de l'art. Ça, c'est pas de l'art. C'est croire qu'on est artiste alors qu'on ne l'est pas. Du coup, finalement, j'ai envie de dire que c'est pas la simple volonté de détester qui rend les personnes aigries. Parce que, je le rappelle, l'aigreur, c'est...
Sentiment d'amertume mêlé d'irritation.
Donc en fait...
Voilà. Non mais je pense qu'il faut le replacer dans le contexte.
Il y a Sylvain qui était pour les cyborgs, et toi, t'as des assistants humains, t'as des Wikipédia humains, en fait, c'est ça?
Oui, ça s'appelle faire participer les gens. En fait, le problème, du coup, c'est que tout le monde est artiste, donc tout le monde partage. Donc on est noyé sous les œuvres... avec des gros guillemets quand même, hein. Les œuvres diverses et variées, et du coup, en fait, tout devient mainstream.
Ah.
Alors, ce terme-là, mainstream...
Donc, en fait, t'es aigri ou t'es hipster, du coup?
Ça, c'est une bonne question, de savoir si les hipsters sont des aigris, ou si les aigris sont d'ex-hipsters.
En fait, ce qui t'énerve, c'est que les choses soient devenues...
Trop facile.
Trop facile.
En fait, on est noyé sous les informations, sous les œuvres des gens. Beaucoup de contenus sont formatés. On a quand même pas mal, en fait, de trucs qui se ressemblent.
Ouais.
C'est aussi ça qui provoque un petit peu l'amertume et l'aigreur. C'est que auparavant, quand l'œuvre arrivait jusqu'à nous, c'est qu'elle avait suivi tout un cheminement quand même en termes de curation, et il y avait souvent des choses à en tirer.
D'accord.
Il y a eu des imposteurs aussi à l'époque, hein, je dis pas le contraire, mais là maintenant, en fait, c'est simplement, ça repose que sur le buzz et la viralité, sans forcément regarder le côté qualitatif de l'œuvre.
Donc l'effort s'est déplacé de la création à la promotion.
Ouais, en fait, c'est ça. En fait, d'ailleurs, on l'avait dit dans une autre des chroniques de 404, que finalement, par exemple, pour tout ce qui est vidéo, c'est pas la personne qui crée la vidéo qui est importante, c'est la personne qui la partage et qui te la fait découvrir. Et en fait, on en arrive là. C'est-à-dire que finalement, on nous partage du contenu. Je dirais qu'on déteste pas l'artiste à l'origine du contenu, on déteste le contenu pour ce qu'il est. C'est-à-dire, souvent du matraquage. Ouais. On peut penser à la photo d'Hélène DeGeneres pendant la cérémonie des Oscars. Elle était super sympa, cette photo. Moi, quand je l'ai vue, j'ai fait waouh. Après, j'ai vu que tout le monde l'a détestée. Je fais ah ouais, non, c'est de la merde. Donc, il y a ce côté un petit peu où, quand ça vient d'arriver, quand c'est tout frais, effectivement, on le découvre, c'est la surprise. Et puis, bah, quand c'est repris et repris et repris, c'est du matraquage, c'est formaté, ça nous saoule un petit peu, quoi.
Donc le fait que tout le monde soit artiste, ça te rend aigri aussi, ça vous rend aigri l'équipe, parce que c'est quantitativement intenable.
Ben voilà, il y a beaucoup trop de contenu. Qualitativement aussi, bah du coup forcément tout se ressemble, puisque les gens, je le rappelle, ne savent pas dessiner, prendre deux photos ou jouer du piano, puisque c'est les applications qu'ils font pour nous. Et puis ben, il y a le côté aussi, enfin qui peut provoquer une certaine amertume, c'est le côté un peu jalousie. C'est-à-dire pourquoi lui et pas moi.
On pense souvent à ces artistes qui ont travaillé et qui voit des mecs qui débarquent d'un coup et qui, de manière peut-être trop facile, remportent un succès.
Oui, c'est ça. C'est plein d'histoires comme ça, de « mais comment est-ce que t'as percé ?»« Ah, ben, j'étais en train de jouer Jeux Interdits autour d'un feu de camp, et puis Pascal Nègre est venu me voir et m'a proposé de faire l'intégrale de Mireille Mathieu à la guitare sèche. » Voilà, c'est ce genre de truc où on se dit finalement que c'est pas la capacité technique de l'artiste qui a fait que son œuvre a été connue, c'est juste la promotion. Et là, je renvoie à tout ce qu'on voit comme télécrochet, etc. C'est-à-dire que les directeurs artistiques en maison de disques ne prennent même plus la peine, en fait, d'aller dans des petites salles, dans des petits cabarets pour trouver la perle rare. Ils vont sur YouTube ou alors ils font un télécrochet, ils regardent les gens s'entretuer pour faire un prime time sur M6, quoi.
Donc, Tim Aigri, c'est les roses.
Oui, mais alors.
Ah, mais alors. C'est un peu bien logique, ça.
Mais cette aigreur qu'on constate, n'est-ce pas, tend un petit peu à s'inverser. Alors, je vais pas te mentir, dans mon équipe, il y a qu'une seule personne qui pense ça.
mais tu as entendu sa voix, ça fait plaisir.
Oui, c'est Maya, donc, qui est à ma droite, qui nous dit en fait que finalement, elle, ça fait super longtemps qu'elle se fait plus insulter sur Internet. Je lui ai rétorqué qu'on n'allait pas forcément sur les mêmes sites, et que moi, personnellement, j'attends toujours de voir un commentaire positif sur YouTube. Mais j'en vois pas. Et donc Maya nous dit que finalement, ça c'était, enfin, la partie aigreur, c'était quelque chose de passager en fait. C'était lié à l'arrivée.
Les gens acceptent aujourd'hui.
Elle veut parler. Je vais la laisser parler.
Ah, tu laisses carrément ton équipe faire la chronique pour toi.
Non, je me sens tellement trahi. Non, en fait, le fait que du coup on puisse tous être artistes et finalement, comme tu le dis, avoir tous accès aux mêmes outils qui rendent les choses faciles. Ça nous force à une espèce de bienveillance parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas très doué nous-mêmes. Et on, du coup, je trouve qu'on pardonne énormément plus qu'on le faisait à l'époque et que justement on est de moins en moins aigri parce qu'on est dans un truc horizontal où il n'y a pas grand monde finalement qui est très, très au-dessus des autres et on est moins aigri.
Ah. Donc ça, c'était le contrepoint bisounours. Très très important de l'avoir. Y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'en fait maintenant pour vraiment détester avec la fin de l'anonymat et l'arrivée du pseudonymat cher à Sylvain Palais dans l'émission du mois dernier, il me semble.
Tout à fait.
Voilà. En fait, il faut un peu plus de courage qu'avant. C'est-à-dire que avant tu pouvais détester parce que t'étais anonyme et que voilà. Là maintenant, quand même, attention, tu détestes, donc tu risques de passer pour le hater. En fait.
D'accord.
Et les gens peuvent se rappeler de toi pour cette qualité-là.
Donc, d'une certaine manière, tu rejoins Maya, il y a moins d'aigritude, mais toi, c'est pour une autre raison. C'est parce que les gens ont plus peur.
Parce que les gens sont plus des baltringues qu'avant, en fait. C'est un peu ça. Il y a un peu des deux. Donc, en fait, je terminerai, n'est-ce pas, cette formidable chronique en disant que, à terme, on en viendra à détester les détesteurs, finalement.
Ah.
Ou pas.
Le ou pas, il est dur.
Hein.
Ton ou pas de fin là, c'est bien logique. Alors je voyais Sylvain et Fibre qui ont pris plein de notes, donc tu vas t'en prendre plein la tête, ou alors tu vas être porté
Bring
au.
Bring it on.
Alors messieurs, Dazui est plutôt aigri parce qu'il associe, enfin l'équipe globalement associe l'art à une forme de travail, de temps.
Parce qu'on cherche en fait, on cherche à apporter le bon contenu. C'est-à-dire que nous on a un peu des rôles de pourvoyeur du bon son, de la bonne vidéo, et que ça nous emmerde de voir des gens qui font la fête sur René La Taupe quoi.
C'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord. Par contre, tu mesures le talent au temps passé à travailler.
Eh bien, oui.
Vous pouvez arrêter de passer avec des armes à feu, s'il vous plaît. Merci.
Et là, c'est Néo.
Pas autant passer à travailler l'œuvre que tu produis, c'est-à-dire que tu peux très bien faire un croquis en 3 secondes comme Picasso le faisait. Je parle de temps passé à crafter ton art,
c'est
en fait.
Poster. T'as déjà aussi des gens qui passent 50 ans à crafter leur art pour faire des natures mortes de grappes de raisin sur une table en bois.
Mais vas-y, fais pareil.
La critique est facile, la
réalité. Attends.
Il y a une notion super importante qui est née avec Internet, qui est la notion d'amateurisme en fait. C'est-à-dire que avec
le hashtag amateur,
non, amateur. Les motion makers, c'est-à-dire que
c'est le hashtag amateur.
En fait, quand les ordinateurs personnels sont arrivés et le traitement de texte est arrivé, ça a tué un métier qui était le métier de typographe. C'est-à-dire des mecs qui avaient des siècles d'apprentissage.
Objection, mais bon, on verra ça tout à
l'heure. Non, mais objection rejetée. Bah, ils font bien les typos pour Windows, mais bon.
Attends,
non, mais,
juste
non, mais le métier d'imprimeur et de typographe qui savait exactement l'écart qu'il fallait pas utiliser tel typo avec tel typo, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a des types qui se sont retrouvés avec la possibilité d'écrire un livre tout seul et de l'imprimer tout seul. Vous savez ce que ça a donné? Ça a donné la Comics en MS. Voilà. Ça a donné des mecs qui se sont dit putain cette typo est géniale, elle est joyeuse et tout. Quand j'ai écrit avec ça, les gens vont être contents. Et ben non, parce que les mecs avaient aucune notion de tout l'historique des typographes qui ont inventé toutes les typos du monde, etc. Qui savent exactement quelles règles machin. Et ils se retrouvent à faire des livres en comics.
Alors là,
et ça c'est l'amateurisme.
Phoenix Wright.
Mais après
parce que le comics en MS en tant que tel, il blesse personne. C'est quand on l'a foutu dans Windows.
Je vous donne 10 secondes sur le comics en MS. On s'attarde.
C'est parce qu'on l'a foutu dans Windows, donc qu'on l'a propagé, que d'un seul coup c'est devenu insupportable.
Comics en MS.
Mais tout le monde ici, tout le monde a imprimé.
Nous saluons Monsieur Connard qui a créé le Comics en MS.
Tout le monde a imprimé en Comics en MS au moins une fois dans sa vie.
Bien sûr, mais c'est exactement ce que tu disais, GarageBand en fait. Sylvain, ouais. C'est-à-dire qu'on a des outils qui nous mâchent le travail et qui du coup brident la vraie création, la création artistique. Cependant,
lien logique.
Néanmoins,
c'est une nouvelle forme de créativité aussi, de s'affranchir des carcans d'un outil qui nous mâche le travail. Et je suis sûr qu'il y a des artistes, c'est sûrement des artistes ironiques et un peu hipsters, qui arrivent à faire du son original avec GarageBand en imprimant une jaquette en comics en MS.
Oui,
j'en suis sûr. Vrai. Et ça, c'est la culture web, les gars. Ouais.
Allez.
Ouais, je suis.
Merci.
Attends, alors fibre d'abord.
Alors,
il a pris des notes.
Attention, Internet ne facilite pas la production de l'art,
oui,
mais sa communication.
Ça, c'est ce que j'ai dit en fait. Si vous vous rappelez bien.
Et là-dessus, on peut.
Et en fait, le mec qui a aigri. C'est pas le mec qui a essayé de faire de l'art avec l'âme, parce que vous pouvez faire de l'art en empilant des pommes de terre chez vous. Et ça marche vachement bien. Et voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous allez au ministère de la Culture, de la Communication, c'est rue Durnard, c'est pas loin, art plastique. Les mecs, ils connaissent pas Internet, hein. Il y a une personne qui a un email, hein. Bon. Et donc, l'art, c'est pas.
Totalement gratuit.
C'est une affirmation impossible à vérifier, bien
oui,
sûr.
Oui, c'est vrai, c'est faux, en fait. Bon, mais il faut caricaturer.
Pour tigre.
Non, cela étant, c'est ça. Et les mecs qui sont aigris, c'est les mecs qui communiquent mal. Et ouais, c'est pas les mecs qui ont fait de l'art et qui se sont plantés.
Bah alors, là, les gars, vous êtes d'accord avec moi.
Alors, Daz. Et donc, pour vous, c'est quand même une mauvaise nouvelle que tout le monde puisse avoir au moins accès à la création, même si effectivement ça rendra pas.
Non, moi ce que je dis.
Mais comme dit Maya, ça peut rendre aussi les gens plus sensibles à la création.
Oui, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus une mauvaise nouvelle d'avoir plus de gens là pour critiquer les nouveaux artistes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre les gens qui sont catalogués comme des aigris, en fait. Pour vraiment des mecs qui des rabat-joie, c'est pas ça du tout. En fait.
L'important c'est le voyage, c'est pas la destination.
Voilà. Oh là là. Sylvain, tu nous parlais tout à l'heure de la fin de la typographie, mais il y a eu un débat équivalent il y a quelques siècles qui était l'imprimerie par Gutenberg, où les gens ont dit attention, vous allez tuer l'art.
Et c'est ce qui s'est passé.
Des petits moines copistes.
Mais non, parce qu'ils font de la bière maintenant. C'est la diversification. L'imprimerie n'a pas remplacé la création, si tu veux, des livres, puisque les moines copistes font exactement la même chose avec leurs petits moyens. Ça a remplacé la reproductibilité et la diffusion. Oui. Exactement comme Internet. C'est-à-dire que maintenant, on peut diffuser à des millions de gens nos écrits, nos musiques, etc. C'est ça qui a changé l'imprimerie. Donc ça ne remplace pas vraiment la création, ça la démocratise.
Tout comme le numérique.
Exactement.
Et j'ai oublié un point.
Après on passe
fulgurance.
Fulgurance.
Par rapport aux aigris, etc. Pourquoi c'est pas de leur faute? Faut pas les détester, même s'ils détestent. C'est que on a tendance maintenant à être assez dépossédé de l'œuvre. C'est-à-dire que quand j'écoute un morceau, je l'écoute pour moi et je m'en fais une image, etc. Et le fait de voir 12 milliards de personnes faire des remixes à la con et des clips, je prends le morceau Happy de Pharrell.
Ouais.
Je surkiffe le morceau. mais il est insupportable malheureusement parce que je vois tous les mecs qui ont essayé de faire des déclinaisons du clip à l'infini et c'est super relou. Donc on en vient
c'est
à détester.
Bien, le petit appui à Levallois-Perret.
Oui, il était beau celui-là aussi. Non, voilà, ouais. c'est ça aussi qui participe un peu à ce mouvement-là, c'est qu'on peut plus s'approprier le truc parce que les gens mettent des images sur les choses à notre place en fait. Voilà, j'arrêterai là.
Alors, un dernier point d'égritude pour la sauce de Daz.
Mais est-ce que l'égritude est négative? C'est ça le prochain sujet,
alors,
en fait.
Par rapport à cette question, par rapport au fait que le numérique permet à tout le monde de devenir créateur, artiste, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont envie de dire quelque chose par rapport à ça? Oui, derrière toi, Fibre.
Ouais, pour lier un peu les deux sujets, où à un moment donné, au moment des cyborgs, on parlait un peu de l'acquisition du savoir. En fait, je pense que si on veut vraiment être un artiste, on doit pas se mâcher le travail. Par exemple, j'ai l'exemple d'un ami à moi qui est chez 42.
C'est quoi 42?
42, c'est 42, l'école.
L'école de Xavier Niel. Et c'est assez admirable de voir la façon dont ils ont des
élèves. Ils ont du réseau ou pas?
Ouais, ils ont pas mal de réseaux.
Ils peuvent regarder YouTube ou pas?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ils peuvent regarder YouTube.
Il y a des questions qui fâchent à 42, je crois.
Et c'est assez admirable la façon dont ils éduquent et ils donnent leur enseignement à leurs élèves. C'est que, par exemple, là, ils doivent réécrire le langage C. Il y a plein de fonctions dans le langage C. On les connaît toutes. Et ben, eux, plutôt que de leur dire, voilà, prenez les fonctions, commencez à écrire des trucs, ils leur font réécrire entièrement toute la librairie. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que je pense que si on veut vraiment être un artiste, faut pas se mâcher le travail avec des nouvelles technologies et reprendre et regarder ce qui s'est fait avant.
Il est là, ton hipster, l'âme. Voilà. C'est le type qui va te sortir un orgue d'église à 147 touches.
Genre fabriquer sa propre peinture et tout, revenir vraiment aux bases du truc. Ok.
Réinventer la roue.
Une personne en public de la Team Rose. Une autre voix dissidente de la Team Rose.
Je pense que ça amène les deux extrêmes. C'est-à-dire que à la fois, tu peux te simplifier le travail, tu as retrouvé des logiciels, j'ai tout fait. Et en même temps, Internet permet de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire d'aller, ça veut dire t'as envie d'apprendre la musique, tu peux aller sur Internet et apprendre la guitare, le solfège et tout. Donc en fait, je pense que ça amène aussi les deux extrêmes, c'est-à-dire ça te simplifie le travail, mais ça va aussi te permettre de comprendre comment ça marche.
Très bien. Une autre réaction là-bas, ouais. On va faire passer le micro.
En fait, il y a un film qui résume extrêmement bien cette dualité entre la possibilité de l'art d'être accessible à tout le monde et d'être vraiment très compétent.
C'est lequel?
Dans lequel on trouve une phrase qui est géniale, qui est « Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut venir de n'importe où, c'est... » Ratatouille, que tout le monde a vu.
Ah,
film de référence. Pas,
ouais. Ratatouille de Pixar.
Bah oui.
On est tous des rats.
On est tous des rats, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous, à la base, complètement détestés. On n'est pas reconnus, on n'est pas crédibles pour qu'on fasse nos preuves. C'est dur. Et à la fin, on arrange un coup entre les deux personnages principaux. C'est plutôt cool.
On a dévié parce que finalement, le rat, ok, personne ne l'aime, mais il a travaillé comme un chacal.
Oh, ce petit bon. Applaudissements. Merci à tous. Un très très beau bong, je trouve, que Gislain nous a trouvé là. Vraiment, c'est un bong qui a été travaillé.
Mélissa, t'as compris qu'il fallait lever le stylo là ou pas?
Elle essaye de.
Mélissa, c'est le genre de personne qui fait attendez, je commence mon intro. Tu sais, au moment où tu fais pour rendre vos copies. Alors, Mélissa et la team
elle
verte.
Elle a la cipage, hein.
Alors, Al et Angie vont nous rappeler le sujet et que Mélissa et l'équipe verte ont traité pendant notre débat sur le sujet de base.
Après la slow food.
Militons pour le slow geek.
J'adore leur voix. Je vous rappelle qu'il y a la voix de RTL et la voix de Naruto qui sont là.
Et j'ai pas mon sujet, excuse-moi.
Non, la voix de Game One.
J'ai pas mon sujet.
Comment? Attends, elle se retourne d'abord. Voilà, ah, okay. Elle arrive. Ça va, Mélissa?
Il est en stress, Fib. Donc...
tu vas voir, Fib, c'est sympa.
J'attendais que Mélissa arrive. On attend que le chroniqueur revienne autour de la table pour pouvoir proposer au dernier chroniqueur, suspense qui est-ce, c'est Fib, d'avoir ton sujet. Donc voici les deux sujets que je te propose.
Ça va, j'ai le temps.
Proposés du coup par Al et Angie.
Sujet numéro 1.
Face à la pression de la win sociale.
Devenons des losers magnifiques.
Quittez l'aventure maintenant.
Donc, on en a régulièrement parlé sur 404. L'internet d'aujourd'hui fait qu'on partage tout, mais qu'on se met tous sous pression sociale de malade, notamment avec des réseaux comme Instagram, pour ne citer que. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire merde à tout ça et redevenir des losers, montrer la vérité, un peu comme ça se passe sur Snapchat,
laisser tomber la course à la popularité, laisser un peu tomber tout ça. Ça, c'est le premier sujet.
Sujet numéro 2.
Le Deep Web.
Change-t-il vraiment les règles ?
Oh là 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 là.
Alors, on parle beaucoup du Deep Web en ce moment, avec des histoires de tort, d'oignons, de tout ça, de plein de choses. Et notamment aussi avec toute l'histoire autour de la NSA, la surveillance. Le Deep Web, c'est cet autre web gigantesque qui est beaucoup plus caché que le World Wide Web. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado ou est-ce qu'une certaine manière, si tout le monde s'y met, à la fin, ça va se développer comme un web normal avec ses limites? Voilà. Est-ce que le Deep Web change les règles?
Je demande à mon équipe.
Alors, Fibre, tu te retournes.
Il y en a un sujet qui vous branche.
Genre, il n'est pas dictateur.
De toute façon, il a choisi dans sa tête. Ouais, mais a, franchement, je veux dire quelque chose. Je suis plus à l'aise
n'importe
avec
quoi.
Mais parce que je connais pas trop le Deep Web. C'est bon ?
Tu peux ne pas connaître le Deep Web et t'en remettre à ton équipe et lui faire confiance.
Alors, vous préférez quoi ?
Est-ce que vous préférez faire l'apologie des losers magnifiques ? Ok, alors.
Ce sera le 1.
Mais c'est bien, c'est en plus. La team Fibretting, c'était la team Pouf Souffle dans.
Je t'ai pas dit Gryffondor quand on a fait la préparation.
Quand on a fait la préparation.
Je suis passé là.
Allez, la team jaune, on peut voilà. Encourager Fibre qui va rejoindre son équipe. Donc, Fibre va devoir faire l'apologie des losers sur Internet, la loser attitude, pour échapper à la pression du web social. Pendant ce temps-là, elle en est à sa troisième partie de sa dissertation. Mélissa, j'ai l'impression que tu grattes n'importe quoi juste pour gratter, en fait, pour dire...
C'est pour faire genre « waouh ».
Alors, j'ai un truc Mélissa, on parle de slow geek, ou le moment où il faut ralentir son activité, arrêter d'être pendu à 134 onglets, 238 apps, et à son téléphone tout le temps. C'est bien ça ?
Oui.
Alors Mélissa,
je voudrais vous présenter aujourd'hui, avec mon équipe derrière moi, le mouvement des 1% pour le slow internet. Nous sommes les 1%.
Vous êtes les 1%.
Nous sommes les 1%.
Vous êtes très riche.
On est très riche. Nous sommes pour un internet éthique. Un internet où on va prendre le temps de faire les choses.
Un internet bio.
Nous sommes un internet où, quand vous arrivez sur un site, il y a un petit label dans un coin, slow internet. C'est joli, il est pas rose. Et vous dites, ça y est, je vais me poser, j'ai pas tous ces onglets, vous avez un onglet. C'est un internet où l'internet va vite. Hein, on n'est pas pour free.
Ah, donc voilà. C'est un slow internet, mais tu pousses pas le vide jusqu'à avoir une barre de chargement.
Mais t'as un seul onglet. Donc c'est bien parce que ça optimise quand même pour la planète l'énergie consommée. C'est vraiment un mouvement qui est bon, quoi, pour l'écologie. On veut un internet où on lirait des papiers pendant une heure. Un internet où il y aurait des réseaux sociaux, où on se connecterait pendant une heure, mais pas plus, et le reste du temps, il marcherait pas. Nous sommes anti-old, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous dirait old, on lui ferait non, je lis un internet de qualité, va-t'en. Nous ne tomberions jamais sur les bas-fonds de l'internet, le deep web, nous connaissons que si on nous y a amené, peut-être,
ouais.
Par un petit panneau. Nous avons un guide du slow internet, le webbing. Nous n'avons pas encore trouvé les bonnes adresses du 11e de l'internet, mais nous les trouverons parce que nous pensons que beaucoup de gens autour de nous pourront rallier les 1%. On espère que les 99% ne nous tueront pas. Notre gourou, c'est un homme qui s'appelle Karl, pas Karl Marx.
Karl de Canada. Il a son internet à lui aussi dans sa tête.
Non, parce que lui, il est pour la gratification personnelle et,
c'est vrai.
Et tu vois, et fébrilement checker son Twitter et tout ça. Non, il s'appelle Karl Honoré, il a écrit un livre qui s'appelle In Praise of Slowness. Et donc c'est un internet où il n'y aurait plus de pages en fait, plus de choses où il faut cliquer, où il faut perdre son temps et de choses comme ça. Juste on serait toujours sur la bonne page.
Ah, c'est bien ça.
C'est un internet...
T'as vu que la lumière s'est tamisée pendant que tu fais ta chronique.
Voilà, parce qu'on est à 1%, on est entre nous, c'est intime, c'est beau. Nous aurions, disons, ce guide, le webbing, pour nous dire, allez, va ici, va sur ce bout de cette autoroute d'information. En fait, on aurait des petites aires d'autoroute. Ce serait nos coins. Mais ce serait beaucoup moins glauque que les aires d'autoroute. Ce serait un peu hipster. Il y aurait Sylvain, peut-être. Même si des fois, il retournerait dans le deep web, faire genre, attendez les mecs, faut pas déconner. Ce serait pas un internet sans procrastination, parce que finalement, il y aurait aussi des endroits où vous pourriez procrastiner, mais juste en tombant que sur les bons liens.
Parce
on n'est pas contre le concept de l'internet qui est quand même un peu la procrastination.
Mais ça veut dire que tu te dis, je vais regarder un chat dans une heure après avoir lu mon article.
Non, ce serait le chat contextualisé et t'expliquerait, enfin tu vois, t'aurais l'histoire du chat sur internet depuis le début.
C'est un bon voilà. Internet. Donc,
ce qui nous permettrait de retrouver notre vie IRL, mais optimisée par l'Internet. C'est un peu un bouddhisme de l'Internet. C'est-à-dire qu'on va se poser tous ensemble.
L'Internet zen.
Voilà. Et on aura la lecture zen, comme sur le site du Monde. On aura des pages magnifiques, on n'aura plus de pubs, on n'aura plus de trucs qui clignotent, on aura un bel Internet. Et on pourra faire des petites retraites organisées pour des fois faire des pauses de l'Internet, parce qu'il faut aussi organiser ses pauses. Parce que c'est bien tous les jours d'avoir ce réseau social, mais il faut même faire des pauses sur ce réseau social qui fonctionne pendant
combien d'heures. Comme sur les autoroutes, genre toutes les deux heures, une pause s'impose, tout ça ou...
Oui, okay. C'est un Internet raisonné, mais pas, c'est pas la prohibition non plus. C'est-à-dire que c'est, on est tous ensemble, c'est une communauté, et on a des petits... Peut-être personne dans cette communauté qui qui nous relayerait vers des pages intéressantes. Voilà, donc je me retrouverais pas sur 20minutes.fr à lire une dépêche AFP. Non, ça ne m'arriverait plus.
Elle je gagnerais ses employeurs.
Je gagnerais un temps fou, un temps de cerveau disponible fou, et je serais plus disponible pour certains contenus que je n'avais pas à voir. En gros, c'est enlever le bruit. Ce serait un internet un peu plus silencieux, un peu plus tamisé.
Qui fait
un internet bouddhiste.
Un internet bouddhiste.
Voilà.
Bon, merci Mélissa. Un internet bouddhiste. Alors,
je tiens à remercier mon équipe.
Tu n'as presque donné envie. Et merci à l'équipe verte. En plus, vous avez été très zen quand vous avez fait le truc. Ça n'a pas fait trop de bruit.
Ouais. Mais on est vraiment, on est.
Alors, un internet.
On est bien organisé. On est silencieux.
Alors, sauf sur l'onglet unique, parce que je crois que ça va être très dur pour les gens de rester zen en disant qu'ils ont un seul onglet ouvert.
Mais en fait, faut juste repenser le web. C'est-à-dire que c'est plus un web d'onglet. C'est un web de
contenu.
Donc, en fait, tu parles d'un web qui est moins quantitatif, qui est plus qualitatif, qui est curationné, qui est mesuré et raisonné.
Où il y aurait plus
Elle parle de 1995.
Il n'y aurait plus la nécessité.
Elle parle de 1984.
Non, c'est le futur, les mecs, vous rendez pas compte. Parce que là, vous, fébrilement, vous checkez vos likes sur Instagram.
Pas du tout.
Un Sylvain. sur Snapchat. Non. Un Sylvain. Non, ça, c'est fibre un peu aussi. Bref, ça, je veux le. En gros, ce serait enlever ça. Enlever cette fébrilité en fait, qui nous rend nerveux et qui nous empêche d'avoir de la mémoire, par exemple. Parce que maintenant, on va se dire il y a Wikipédia. Mais là, ouais. Non, en fait, on lirait un papier pendant une heure et on se dirait, je vais apprendre quelque chose, je vais le retenir, je vais y penser ensuite.
Est-ce que, attends, juste avant que Daz réagisse, parce que Daz n'en peut plus, il en apnée, est-ce que ça rebondit un peu sur ta FAQ du mois dernier où tu disais que ton fantasme serait de faire un site internet avec un seul article par jour, très qualitatif?
Mais tout à fait. Parce que moi, j'adore le bruit d'internet,
ouais.
Mais j'aimerais qu'on le sélectionne quand même un peu. J'adore l'idée de tomber sur quelque chose sur lequel je ne serais jamais tombé. Mais en fait, je voudrais ne pas fureter trop sur les autoroutes de l'information.
Très bien, très bien. Daz.
Daz va mourir. À toi.
Non, en fait.
Daz, tu crèves d'envie de
soutenir. Non, non, alors, j'essaye déjà d'insulter personne. C'est très dur. Non, non, mais.
C'est une fiction, c'est une attitude.
D'accord. Non, alors, le label Max Havelaar, tout ça, en fait, ils ont recréé le mouvement hippie avec Internet Explorer 4.0. Donc, bon,
si on... On veut quand même des trucs hyper performants.
Ouais, mais.
Minimalistes, mais qui fonctionnent très bien.
Donc, ça s'appelle un hipster. Hein, donc, t'as un vélo avec une seule vitesse.
Mais tu penses que le webbing, c'est quoi? C'est le fooding du web, le webbing.
Non, ouais. En fait, le truc, c'est. Mais je constate, en fait, cette tendance-là chez pas mal de personnes que je connais. Par exemple, j'ai une collègue qui m'a dit aujourd'hui, je jouais vachement à Flappy Bird, mais je l'ai viré parce que j'y jouais trop.
Ouais.
Et en fait, je lui ai dit, donc tu ne joues plus. Elle me dit non, parce que quand je joue, en fait, j'arrive pas à me contrôler. Et là, en fait, je me dis, donc tu te prives finalement, parce que t'es pas capable de réguler ta propre console. Donc quand t'es sur Internet, t'es pas obligé d'ouvrir 257 onglets, en fait.
Bah, ça arrive assez naturellement quand même.
Non.
Ah ouais?
Non, le clic propre.
Le clic propre, la campagne présidentielle d'Audaz.
Le clic, il te coûte du temps de cerveau, donc tu ne cliques pas comme ça parce que t'as un bouton, il faut appuyer.
2015, le clic propre.
Question dans le public, levez la main les gens qui ont en général plus de 6 onglets ouverts sur leur navigateur.
Eh bien voilà, je vous plains, messieurs, dames.
Voilà, on est sale.
Moi j'ai 34 onglets ouverts.
Moi non, parce que ça prend déjà beaucoup trop de mémoire.
Ouais.
Et donc après, l'ordinateur se met à souffler. Mais non, en fait, ce que je reproche à ces gens-là, enfin à ce mouvement-là, entre guillemets, c'est de pas savoir s'auto-réguler et de vouloir absolument tout ce qui leur permet de consommer de manière raisonnée. Et je trouve ça complètement triste.
C'est-à-dire que pour toi, les gens doivent juste avoir la capacité mentale et la discipline pour le faire d'eux-mêmes.
Ouais, en fait, on n'est pas des autistes, sans offense pour les autistes.
L'idée, du coup, ça te donnait des pistes.
Non, mais en fait.
T'es tellement gratuit,
Marc. Mais non, parce que j'avais vu un super reportage qui disait que les autistes, en fait, surtout pour Asperger, le problème, en fait, c'était qu'ils n'arrivaient pas à faire le distinguo entre ce qui doit être écouté, ce qui mérite l'attention et tous les autres bruits. Ouais. En fait. Et que donc, ils travaillaient beaucoup là-dessus pour être capables de distinguer finalement la voix de quelqu'un par rapport à une canalisation qui goûte. Parce que pour eux, c'est, l'information arrive de la même manière.
Il n'y a pas de hiérarchisation.
Voilà. Donc tout est au même niveau et effectivement, ils doivent trier. Et
nous. Tu arrives à une fin de métaphore entre les internautes et les autistes.
Ouais, tu veux dire qu'on est tous des autistes d'Internet en
fait. Moi, franchement, je suis très. Attention, pour moi, autiste, c'est qualitatif. Non, ce que je veux dire, c'est que eux sont obligés de le travailler, ce don-là. C'est-à-dire le don de savoir faire le tri entre toutes les infos qu'on reçoit pour ne garder que ce qui est digne d'intérêt. Eux, ils doivent le bosser. Pour un être humain normal, c'est naturel. Il n'y a pas de travail à faire. Donc, pour moi, se priver d'Internet ou se priver de jeux, parce que sinon, on n'est pas capable de gérer notre compulsivité, je trouve ça absolument.
C'est un signe de faiblesse.
Ouais.
Ok, d'accord.
Ouais, un peu, ouais.
Sylvain, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je trouve que Mélissa a décrit un futur dans lequel je ne veux pas vivre.
Ah oui, d'accord. Pourquoi tu ne veux pas vivre dans ce futur ?
Dans les 99%.
Bah, déjà, parce que ça ressemble en fait à la vraie vie. Ça ressemble vachement à la vraie vie.
C'est donc... dire. Pourquoi ça ressemble à la vraie vie ?
Bah, parce que c'est chiant.
C'est pas chiant. C'est zen.
Ah, parce qu'il y a des panneaux qui t'indiquent où tu dois aller.
Sylvain qui est quand même monsieur Serrant. Pidipité.
C'est Randy Pité. Voilà, Monsieur Flannery. Alors,
sur Internet.
Oh là là, comment tu as dit ? Voilà, alors, moi, je veux bien procrastiner, mais que sur les bons liens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire qu'on, des bons guides,
on te donne de la bouffe à procrastiner. On te dit non, tu procrastines pas par là.
Mais,
non.
Tu choisis les bons produits sur la slow food. Et ben là, tu choisirais les bons produits. Mais
donc t'as quelqu'un qui te dit c'est ça qu'il faut que tu consommes.
Tu brûles rien de qualité. C'est génial.
Mais non, ça ressemble à une dystopie où les journalistes seraient le pouvoir. Non, je déconne. Non, mais pour moi,
t'aurais pas trois liens.
C'est une communauté hippie qui ressemble à une secte. Et t'es complètement en train de tuer la notion de découverte, la notion de. Et puis même, j'aime bien quand ça va 100 à l'heure. Alors, je suis d'accord pour des havres de paix, des aires d'autoroute, ça j'ai bien aimé.
Merci.
Faut pas que le web se transforme en rue piétonne, quoi. Tu vois, avec des mecs qui sont là.
Il y a trop de métaphores en même temps. Alors attendez.
Faut expliciter quoi.
L'air d'autoroute, c'est Mélissa. Les toilettes turques sur l'air d'autoroute, c'est Daz. Et toi, tu parles de la rue piétonne. C'est quoi la rue piétonne,
C'est-à-dire que la rue piétonne.
La rue piétonne de l'information, je vois bien le livre.
Dans une journée.
Aller loin, là, hein.
Si tu suis une rue piétonne, tu traverses Paris.
Ok.
Sur Internet, en 30 secondes, tu traverses le monde.
C'est beau ça, tu te sens bien.
Je m'en Dieu.
Mais est-ce que tu as vraiment vu le monde, Sylvain?
Mais tu parles du journal?
Non, mais après, je suis d'accord avec Daz, il faut savoir se réguler. Si les gens sont pas capables de le faire eux-mêmes, on a besoin de guides, etc.
Non.
Mais n'impose pas ton wedding.
Non, mais c'est pas imposé, c'est une proposition, c'est
exactement.
Une offre. C'est
pas.
C'est
intéressant de la part de Mélissa, et là où elle a raison,
ça ressemblait quand même à un truc un peu.
Non, c'est un manifeste de ce qu'on aimerait faire.
Déjà, les gens qui font des manifestes.
Je m'en méfie.
Déjà.
Non, mais on le publierait pas parce que ça impliquerait que les gens perdent du temps.
Là où je rejoins plus Mélissa que Daz, c'est que beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui à se discipliner. Il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui du mal à ne pas ouvrir 20 milliards de liens, à ne pas checker mécaniquement leur téléphone, ne pas checker.
C'est l'entre-deux entre je check mes.
Eh les gars, comme vous savez rien gérer, on va faire en sorte de vous transformer le truc en play school, quoi. N'importe quoi, je veux dire. Mais non, mais je trouve ça complètement con, quoi.
Ce problème qui est réel aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que ta vision du slow geek, Daz?
Non, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis pour la conso maîtrisée, je suis pour l'autorégulation, en fait.
Ouais.
Et je ne veux surtout pas qu'on décide pour moi.
D'accord. Ok.
Je veux avoir le choix.
Tu peux un pacte de responsabilité que je vous propose.
Avec des contreparties.
C'est vrai que tu fais une belle carrière, Daz.
Non, mais voilà, je vous vois et propre. Franchement, vous m'attristez un petit peu. Hein. C'est dit sans condescendance aucune, mais.
Les Mongoliens.
Je suis sûr que tu te sentirais bien dans le slow.
Mais non, mais parce que moi, je suis
parce qu'en fait, c'est un peu ce que tu dis, quoi. Quand tu dis je suis pour le flic propre, tu sais que t'en es pas encore là. Mais tu sais que tu veux arriver.
Mais je clique pas. Moi, le clic, c'est comme si à chaque fois que je cliquais sur le bouton de la souris, je payais 50 euros.
Tu les as 34 onglets, quoi.
Non.
Toi, tu réfléchis avant
de cliquer. Tu regardes jamais de vidéo de chat, à vous.
Mais je me dis, ai-je vraiment besoin de lire ça?
Ah, mais on se dit tous la question, mais au moment où on se pose la question, comme dit Mélissa, on a déjà commencé à lire, on a déjà commencé à cliquer.
Mais si je clique et que je me rends compte qu'en fait ça sert à rien, je ferme l'onglet. J'ai l'impression que vous les collectionnez comme si c'était super important de tous les avoir sous la main. Je veux dire. T'ouvres des onglets successifs, ok, bon, bah t'es au sixième onglet, peut-être que tu peux fermer les cinq autres, en fait, finalement, tu vois.
Mais c'est la peur de manquer quelque chose.
Juste avant de poser la question publique, sur les smartphones, là on parle d'addiction quasiment physique, on se rend compte qu'on tripote son smartphone comme les gens ont tripoté leur briquet à l'époque et ils frottent leur briquet comme on enlève la veille, on remet la veille de son smartphone. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous préoccupe ou c'est quelque chose qui va passer? Ou est-ce qu'il faut se donner des règles? Bah, moi, du fameux phone stacking que certains appliquent.
Un jour, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, pendant deux jours, je me mets en mode avion. Mais vraiment, quoi, j'en pouvais plus. Vraiment, je crois que je devais juste venir d'aller sur Instagram, je sais plus pourquoi, mon doigt y allait tout seul. Et ouais. Là, je fais waouh. Et je suis passée en mode avion pendant deux jours, c'est fou. Mais du coup,
T'as tenu?
J'essayais encore d'aller. Oui, j'ai tenu, mais j'essayais encore d'aller voir mon iPhone. Enfin, je l'ouvrais, quoi.
Alors, des agros à l'héroïne. Je peux rien faire. Voilà. Vous êtes des junkies, en fait.
Non, mais.
Daz, en fait, il n'y a jamais de problème. Il est relou. Il
fait, non, mais c'est ça, genre, je suis le meilleur. Je clique sur trois onglets. Je regarde pas de vidéo de chat.
Mais c'est vrai, non, mais je peux passer beaucoup de temps sur Internet, mais pas avec 70 onglets, bordel. Acceptez-le, acceptez ma différence. Enfin, qu'est-ce que c'est
un peu différent, c'est vrai.
Sylvain.
Mais je pense qu'on est compulsif parce que on centralise tous nos liens sociaux, toute l'information, tout le travail, la vie personnelle, etc., dans un seul même objet. Donc c'est normal qu'on le check tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour en revenir toujours, je vous saoule avec ça. Mais quand on aura fragmenté toutes ces informations en différents objets qui pousseront l'info pour nous, on le sortira moins notre smartphone. Moi je le vois déjà avec une montre connectée qui je peux rien faire avec, elle m'affiche juste mes mails et mes SMS, et ben mon téléphone je le sors moins.
Voilà, comme quoi il y a une régulation.
Mais à l'époque où tu avais déjà dit ça, j'avais dit que c'était triste. Tu t'en rappelles ou pas?
Je m'en souviens.
Mais ça, pour finir, je pleure. On demande son avis au public.
Rejoignez les 1%.
Ah, on peut applaudir la team vert et la team d'1%.
La team vert, merci beaucoup.
Est-ce que dans le public, il y a des gens qui veulent réagir? Alors, une personne ici, derrière, monsieur. Par rapport à cette philosophie du slow geek, de la maîtrise de ces pratiques...
J'ai une question, enfin une réflexion plutôt qui arrive là-dessus, c'est qu'on se demande c'est bien, c'est pas bien, etc. Est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui serait hors de cette grille de lecture? Si on commence à imaginer des phénomènes comme ce qu'on va appeler la cyberaddiction, qui est un sujet sur lequel il y a des États qui sont en avance, la France, absolument pas. Si vous allez sur le site du ministère de la Santé, il n'y a aucune référence à tout ce qui va être cyberaddiction. Est-ce que justement on n'est pas dans un nouveau paradigme de la relation où il faut commencer à penser en termes de limite, pas de maladie, mais d'addiction comme
d'addiction comme physique,
addiction physique.
Bien sûr.
Et est-ce que justement il ne faut pas commencer à se poser des questions à ce niveau-là?
Est-ce que vous considérez vous que c'est quelque chose qui est dangereux ou est-ce que justement on dit il faut le considérer comme tel et dire oui ça existe et
dangereux comme on peut fumer des cigarettes et être magnifique jusqu'à 70 ans ou c'est une question qui pose, j'ai pas de réponse là-dessus mais c'est peut-être une piste etc pour relancer le débat sur ces rails là.
Ah carrément, faut aller. C'est vrai qu'il y a des pays on a vu.
Je crois que Nora a une réponse à Hugo.
Alors.
Nora.
Nora à Hugo. Donc Hugo, c'est la personne qui vient de parler, et Nora, c'est la personne qui va lui répondre.
Enchantée Hugo. Merci. Bonsoir Hugo. Non, c'est pas vraiment une réponse, c'est que ça existe déjà. En fait, il y a eu un article dans je sais plus quel média il y a quelques mois où il y avait un service hospitalier de cyberaddiction et Romain a le nom d'un mec.
En France ou à l'étranger?
Non, en France, il y a un psychiatre, psychologue très populaire dans les médias qui s'appelle Michael Stora et qui traite d'addiction. Aux jeux vidéo ou réseaux sociaux, quoi.
Mais il soigne aussi avec le jeu vidéo, d'ailleurs.
Oui, voilà, mais il fait les deux, quoi.
Très bien. Donc Hugo, il y a des initiatives.
Il y a des initiatives, mais un médecin ne changera pas le monde et ça passe plutôt par des initiatives gouvernementales, etc. Mais c'est peut-être pas le sujet.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, des gens qui veulent partager leur expérience? Oui, par ici, par rapport au fait qu'il faut adopter une. Est-ce que l'attitude slow geek.
L'infobésité ne serait pas devenue la nouvelle ère qu'on respire? Tout
d'accord. Donc toi, tu es plutôt de l'avis d'accepter l'époque dans laquelle on vit et de l'assumer en fait.
Oui, c'est comme quand l'homme préhistorique était nu et à un moment il s'est dit, ça serait bien que je m'habille quoi.
D'accord.
Aujourd'hui, on se pose même plus la question. D'accord. C'est normal de s'habiller. Donc aujourd'hui,
c'est intéressant comme point de vue. Parce qu'à moi, faut pas juste l'embrasser cette tendance et dire c'est la norme d'aujourd'hui, c'est normal.
Moi, je suis extrêmement progressiste, donc go.
On avait remarqué.
Moi, j'y vais quoi.
Mélissa.
Oui. Okay. On y va.
Dernière. Personne dans le public, si quelqu'un veut réagir à la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement accros? Est-ce qu'il y a des gens
qui ont envie d'en parler,
monsieur, qui ont les doigts abîmés à force de les frotter contre les coins de leur smartphone?
Alors après, est-ce que c'est pas la culture du buzz?
C'est-à-dire
aujourd'hui,
le mot est lâché.
On a dit 20 fois hipster. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sites de médias cherchent la page vue.
Oui.
Pour rentabiliser leur site sur un plan média, sur du display, quoi, typiquement. Et cherche à faire du contenu très rapidement. Et derrière, ça alimente donc l'audience qui veut trouver absolument en fait le dernier buzz qui est sorti pour après briller en société.
D'accord.
Donc en fait, c'est l'œuf et la poule quoi quelque part. C'est on alimente les gens de buzz, de choses hyper originales ou pas, du tout. On écrit très rapidement le contenu. Et d'un coup, bah, effectivement, on alimente les gens s'alimentent, et après derrière, discutons en société. Ah oui, t'as vu le nouveau machin qui est sorti, ou t'as vu machin. Et c'est des articles qui font 10 lignes, 15 lignes, sans réellement de fond, ou très peu de fond. Voilà.
On revient à ce fameux bruit qui est un peu un des fils rouges de toutes ces thématiques.
Tu viens de décrire la pop culture, en fait. C'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de notre société, on est passé d'un moment où on discutait de est-ce que t'as vu ce dernier film d'auteur, est-ce que t'as vu ce dernier opéra, à. T'es allé voir Star Wars, tu l'as vu la dernière pub de truc. C'est juste que la culture est en train de changer, mais ça la remplace pas. C'est-à-dire que les articles buzz, les titres à la con, ne sont pas en train de remplacer les articles de fond. C'est comme à la télé, t'auras toujours du big deal sur TF1. Alors, et t'auras toujours des.
Je dis pas qu'il remplace, c'est juste qu'en fait, elle alimente en fait un système aujourd'hui qui fait qu'on consomme énormément de choses, que le tri ne se fait pas obligatoirement et que effectivement. On va moins, alors peut-être pour les plus jeunes ou les plus âgés, je sais pas, sur les articles de fond.
Tu es en train de me dire que les gens seraient en train de devenir des Mongoliens. C'est ça que tu.
C'est bon, c'était Daz, il peut partir. Allez, c'est le gong, c'est fini.
Ça c'est fait.
C'est bon, t'as dit Mongolien, tu peux partir.
Ouais.
T'as dit autiste aussi ce soir. Merci en tout cas, Messa, et merci l'équipe Berne, on peut les applaudir encore une fois.
Bravo.
Très bien traité. Je vais traiter avec beaucoup de bienveillance. Et nous allons donc accueillir le dernier chroniqueur avec la team jaune. Applaudissements pour la team jaune et pour Fibre.
Merci.
Ah, tu restes là-bas, Fibre.
Alors, si ça vous dérange pas, je reste là parce que ils ont tous des choses à dire sur le sujet.
Voilà, comme ça, tu fais plaisir à Eric et à Gislain qui ont mis 4 heures à faire les éclairages pour que tu sois dans la lumière, pour bien rester dans l'ombre.
Voilà. Et comme ça, en plus, je reste dans l'ombre, c'est très bien. Alors est-ce que Fibre. Tu peux me rappeler le sujet parce qu'on a un peu oublié.
Fibre, on parlait donc de. Le sujet que vous avez choisi, c'est. Dans une ère où la win sociale est devenue extrêmement oppressante, où il faut vraiment faire des choses intéressantes, partager des choses intéressantes, montrer des choses intéressantes, est-ce qu'à un moment il ne faut pas dire merde, tout claquer et devenir un loser magnifique? Alors, et soutenir la loser attitude sur internet?
Alors déjà j'ai demandé à mon équipe si effectivement ils avaient cette pression de win et ils se levaient le matin pour avoir des likes, et presque tous. Donc je vais en parler. Il y en a un en particulier qui va dire ça.
Alors,
s'appelle Valentin.
Alors Valentin.
Oui, papa, maman, désolé avant tout. Mais oui, tous les matins, quand je me lève secrètement, je veux du like, du retweet.
Ah là 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 là.
Voilà.
Bah, y en a, ils ont
suivez tous Valentin.
Alors,
t'as le morning glory, puis t'as le morning.
Voilà. Et donc, en fait, certaines personnes ont tendance à communiquer sur leur style de vie, et non pas de façon positive, mais plutôt en mettant en exergue, peut-être parfois par ironie, des aspects plutôt, on va dire, médiocres de leur vie. Et à ce moment, et justement, Alexandra de mon équipe, l'équipe jaune, m'a fait remarquer quelque chose par rapport à ça.
Pourquoi finalement mettre cette médiocrité en avant? Donc peut-être une réponse, c'est qu'on souhaiterait éventuellement susciter de l'empathie. Et donc ainsi transformer finalement.
Daz, tu recules, tu poses ce micro au sol. Tu poses ce micro à terre doucement, Daz. Doucement, doucement.
Et donc effectivement transformer la médiocrité en une opportunité.
D'accord, carrément.
D'avoir de l'amour.
Daz, tu poses ce micro, j'ai dit.
C'est là que Maxime a dit, mais c'est bien sûr. Et il m'a parlé de quelque chose qui est hyper récent par rapport à ça. Et il va vous dire ce que c'est. Ça s'appelle la norme corps.
Oh, la norme corps.
La norme corps. Voilà, t'es dégueulasse, c'est
Asso,
les jeunes branchés maintenant vont plutôt s'habiller avec des vieux jeans délavés, des baskets, tout ce qui est plus banal, un t-shirt uni, voilà, et c'est devenu la grosse mode, c'est un truc, c'est cool, c'est la mode.
Et on en parle beaucoup en ce moment sur internet de cette fameuse
norme. Voilà, alors justement, source.
Alors il y a un article de Slate qui est sorti le 4 mars, c'est de Vincent Glade et ça parle de la norme corps.
Qui a été repris de The Verge, qui est suivi New York Max, si je ne m'abuse, qui parle de ce fameux norme corps.
Voilà, la norme corps. Et donc, en fait, moi, ça m'a rappelé, tout simplement, dans les années 80, une démarche qui était complètement identique, même un petit peu avant les années 80, qui s'appelait le punk, puis après le mouvement hyper normal, c'est-à-dire, vous êtes tous peut-être un petit peu jeunes, mais c'était des gens qui s'habillaient en touristes japonais et qui jouaient sur des synthés avec une note. Et les mecs, il n'y avait rien de plus hype qu'eux, et pourtant, ils s'habillaient en fonctionnaires de l'administration, quoi. Et c'est donc en fait la recherche de la distinction par la normalité, elle a toujours existé. Et en fait, Hector Obalk, dans un livre qui s'appelle La mode expliquée aux parents, explique que en fait le désir secret du punk, qui veut être un rejeté de la société, en fait le vrai punk, il devrait pas avoir une crête et des chaînes et un chien, mais il devrait s'habiller comme ce qui était à l'époque un geek, c'est-à-dire un mec avec un petit polo et un petit bic là, parce que c'était la recherche du plan hyper normal. Voilà. Alors, ceci pour conclure que dans un premier temps, que la simplicité, c'est un peu l'ultime forme de la sophistication. Et Amandine, qui est dans mon équipe, va me citer deux exemples plus précis de gens qui cherchent, enfin, qui ont ce type de comportement.
En fait, je me suis fait une réflexion. Quand on a un post sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, c'est en général le signe d'une soirée ratée. Parce que quand t'as passé une bonne soirée, tu prends pas le temps de poster. Ou alors tu prends le temps de poster le lendemain ou à des amis proches. Voilà. Donc, je vois des internautes dans ma timeline qui tweetent vraiment très très souvent des photos de soirée, vraiment vraiment beaucoup sous tous les angles. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas profité. Et c'est comme si en essayant de montrer qu'ils ont vraiment la win sociale, qu'ils boivent, qu'ils sortent, qu'ils ont plein d'amis, ils ont la loose parce qu'on commence à douter en fait. On se demande si c'est pas mis en scène quoi.
C'est comme les gens qui disent, je suis trop bourré quoi. Alors,
ouais, en fait, voilà, pas... c'est un peu ça.
Voilà. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe beaucoup ça.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une inversion, puisque au départ, les réseaux sociaux, je pense que ça a été créé par des losers pour avoir un moyen d'avoir la win, quoi.
Enfin, les losers, c'était des militaires qui ont fait ARPANET, donc.
Ouais, non, mais en fait, je pensais à Zuckerberg, qui n'avait pas forcément beaucoup d'amis, qui a créé Facebook, l'explosion. Et c'était une façon d'exister en ligne, parce qu'ils pouvaient peut-être pas forcément exister in real life.
D'accord. Donc un rapport historique au loser fibre.
Et transition, puisqu'on parle des réseaux sociaux, il y a.
Tu peux demander des transitions à Daz, il en a plein.
Non, il y a. Cependant.
Néanmoins.
Non, mais là c'est pas une opposition, c'est dans la continuité. Il y a Aurélien qui avait une bonne remarque sur les réseaux sociaux. En fait, réseaux sociaux récents que je connais pas.
Je tiens à dire, Philippe, que tu as totalement crowdfundé ta chronique.
Et en l'occurrence, tout à fait un réseau social récent, c'est Snapchat. Justement, elle disait tout à l'heure que les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas un peu le meilleur moyen pour les losers de s'assumer, se développer? Il y en a un, c'est Snapchat. C'est vraiment l'espace parfait pour, en 10 secondes, exprimer le moment le plus honteux, le plus gênant de sa vie. Après tout, il ressortira jamais. Et c'est le moyen de s'assumer. Donc la question, c'est est-ce que être le loser qui s'assume, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de devenir un winner? Donc soyez loser, la win va venir à vous.
Oh là 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 là, c'est pas mal, Fibre. C'est une bonne équipe, hein.
De ces témoignages contradictoires, il y en aura encore un qui va intervenir. Dans ces témoignages contradictoires, on peut dire qu'en fait, c'est la démarche de vouloir être hype ou de vouloir être winner qui rend en quelque sorte pathétique. Mais bon, quand on est pathétique, c'est qu'on est un peu humain, donc c'est pas désagréable. Et je vais terminer sur une citation que va nous dire Lolo _GH, parce qu'il se présente pas sous son vrai nom. Et c'est une citation historique. Vas-y.
Citation historique.
Exactement, c'est Louis XIV, notre chef à tous, qui nous disait que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre.
Ah, c'est beau, dis donc.
Et voilà.
On peut les applaudir très fort. Ah, très belle chronique.
Merci l'équipe.
Merci à l'équipe des losers. Donc, en fait, Fibre, vous êtes quand même plutôt pour cette loser attitude, parce qu'en fait, pour vous, elle a toujours été là. Et qu'on n'échappe pas vraiment, en fait, d'une certaine manière.
Alors, les avis sont partagés sur savoir si on est pour ou contre.
D'accord.
Le caractère pathétique de la recherche rend humain et on est toujours de l'empathie par rapport à ça, au premier degré ou au second degré.
Donc, de la tendresse de Fibre par rapport au sujet, Mélissa.
Est-ce qu'on peut dire que Fibre n'est jamais dans cet état-là, dans une émission normale de Studio 404 ?
Vous l'avez fait pleurer,
d'habitude, il est vénère et dit
il
assume une opinion qui est pleine de mauvaise foi.
Alors, je sors jamais de chez moi, là, j'ai rencontré des humains en vrai et c'est touchant.
Du coup, t'as été sympa.
Voilà.
C'est fou, hein ?
Oui,
c'est pas des trucs dingues.
Alors, j'aimerais rebondir, n'est-ce pas ? Ce que Fibre Tigre dit, en fait, finalement, c'est, il y a quand même un aspect monolithique qui, moi, me déplaît. C'est-à-dire que je suis un loser. C'est ancré en toi et tu seras un loser toute ta vie, quoi que tu fasses. Et donc, il faut que tu essaies de retourner ce truc-là à ton avantage. Pour moi, ça, c'est super basique comme axe de réflexion, en fait.
D'accord.
Je pense pas qu'on ait tout le temps des winners, qu'il y a des mecs qui se lèvent en étant winners toute la semaine et toute l'année. De même que je pense pas qu'on ait tout le temps des losers et qu'il faut essayer absolument d'avoir de l'amour parce qu'on réussit à tout, enfin, on réussit à rien, en fait. Je pense que c'est un mix des deux qui fait qu'on est des êtres humains, tu vois. Donc,
est-ce que tu penses pas qu'il y a une sorte de culte un peu de la win sur les réseaux sociaux ces dernières années où on se retrouvait à s'obliger à montrer ses pieds en vacances, une aile d'avion, ses nombreux amis, des burgers toujours plus chers, tout ça.
Ça, oui.
Et qu'à la fin, quelqu'un a dit fuck it, effectivement, je bouffe du Picard. Quoi que Picard, c'est pas mal. Fuck it, je bouffe du...
En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est si les gens qui disent fuck it, je bouffe de la soupe.
Et qu'ils partagent.
Sylvain, et qu'ils partagent, ne partent jamais en vacances pour de vrai ou pas.
C'est très sophistiqué, là.
Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Toi qui montes toujours des onglets de bœuf hors de prix.
Moi, je fais ça du tout. Non, il est pour la soupe devant Trou Détective.
Ouais, et puis des jambons et Herta, tu sais, à moitié entrouvert. Non, mais il faut être vrai, soyez authentique. C'est tout. Non, mais c'est vrai, cherchez pas. Enfin, ça se voit de toute façon. Quand les mecs en font trop, ça se voit. Donc.
Mais enfin, tout à l'heure, Amandine disait, il y a aussi des gens qui montrent leur loose pour en fait finalement aller chercher l'empathie.
Des attention whore.
C'est ça, ouais. C'est pour faire pitié.
Pour faire pitié.
Ouais, les gens qui se plaignent tout le temps. Ouais.
Donc il n'y a pas de loser attitude possible et honnête finalement. C'est toujours quelque chose qui est calculé.
Dès qu'il y a XXX attitude, c'est que c'est calculé en fait.
Non, c'est dès qu'il y a des hashtags. Dès qu'il y a des hashtags, c'est calculé. Non mais sérieux, c'est vrai. C'est vrai. Dès qu'il y a des hashtags, arrêtez.
L'anti-guide de la loose. Ne pas mettre de hashtags.
Mélissa, est-ce que tu montres des moments de loose? Est-ce que des fois tu n'essaies pas de calculer si c'est quelque chose qui va te montrer sous ton meilleur jour ou
c'est pas une question de win ou de lose, c'est des gens qui ont besoin de gratification, je pense. Enfin, on cherche tous un peu ça. Et il faut se poser la question de pourquoi on cherche ça. Si on vient combler une névrose grâce à ça et qu'on pense que ça va vraiment nous servir, oui, là, on est un peu loser. Parce que, enfin, je sais pas si ça vous rend fondamentalement heureux, quoi.
Ouais. Est-ce que certains d'entre vous, du coup, la jouent franc jeu ou il y a toujours une... Vous êtes un peu en mode, je vais prendre la meilleure photo.
Je pense qu'assumer la réalité, quand on y arrive, mais c'est très très, très très difficile, mais quand on arrive à assumer la réalité de notre quotidien, on est très puissant.
On est en train de faire un débat France Culture, là.
il est bon. Mais tu sais que t'es calme, il faudrait que tu vois des gens plus souvent, je trouve. Ça
le rend normal.
Nous, on lui suffit plus, donc.
Il a le poil doux, tout ça, il ronronne, c'est cool. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'on tâtonne là-dedans, parce que c'est quand même récent pour tout le monde de se mettre en scène avec des images, avec des écrits.
C'est vrai que ça fait
nouveau. Avec des vidéos, avec des Snapchats, ce genre de choses. On crée une partie de nous, une histoire, avec des éléments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler. Donc c'est normal qu'on fasse des erreurs.
Mais en fait, on romance sa vie même sans le vouloir, du coup.
Ouais, carrément. Ouais, bien sûr, on se met en scène constamment, on est tout le temps en train de se mettre en scène.
Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui voudraient réagir sur la question de cette pression sociale que parfois vous ressentez et l'obligation que vous avez peut-être de rentrer dans cette course à la vie sociale remplie
un peu. Cet homme est un twitto relativement influent, mais on ne dira pas qui c'est.
Ah, caché dans le noir.
Sur quels critères, Toto Bastu?
Bien, bonsoir.
Bonsoir.
Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'art a déjà utilisé le loser sublime, comme vous l'avez appelé. Il y a qu'à voir en ce moment les séries qui ont le plus de succès. On a Bref, qui mettait en scène un gros loser qui est devenu un héros. On a, côté musique, on a Orelsan, on a le club des losers qui mettent en avant une vie assez triste et assez méprisable. Sur le net, sur YouTube, on a Norman, Cyprien qui montrent leur quotidien, qui parlent de masturbation, site de cul, etc. Donc finalement, on voit que ces gens ont du succès. Et peut-être qu'inconsciemment, on se dit, moi aussi, si je raconte que j'ai du sopalin sur ma table de nuit, peut-être que les gens vont fave, vont RT, etc.
Est-ce que tu décris pas ce que Amandine peut-être disait tout à l'heure, ce sont des gens qui mettent en scène leur côté loser pour en fait aller chercher de manière très brute de l'empathie, rien d'autre.
Soit le mettent en scène, ou soit l'assument tout simplement, dans la mesure où ils se disent, tiens, des gens ont ri sur Bref avec le sopalin qui revenait à chaque épisode. Alors que le sopalin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose. Enfin, moi, je sais pas.
Ah, t'es sopalin, toi? Ah, je sais pas.
Chacun son truc. Et donc, les gens assument finalement. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que par exemple, Fibre Tigre, à une époque où il était à moins, on va dire, de 8000 followers.
Un vrai loser, quoi.
C'était un vrai loser. C'était quand? À l'époque, il tweetait beaucoup masturbation, ce qui était très intéressant. Et depuis qu'il est dans une nouvelle sphère.
Le public a changé. Le public a changé.
Et du coup, il a atteint cette win dans la mesure où il a plein de projets qu'il concrétise et il a plus besoin de cette image du loser, peut-être.
Tu veux dire qu'il a été chercher la win avec un coup de poignet, c'est ça?
Oui. Le mec a tourné le doigt à son public, en fait.
Mais non, pas
exactement.
Du tout.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Nora.
Je vais prendre un pseudo, comme ça on ne saura pas que c'est moi à chaque fois. Non, en fait, il y a deux choses. Déjà, enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait de la loose d'avoir du sopalin à côté. Je pense qu'on a tous des mouchoirs ou du sopalin et qu'on se masturbe tous. Enfin, j'espère pour certains. Jamais. Non, mais c'est juste la vie quotidienne. C'est juste l'empathie vient pas de la loose attitude. L'empathie, elle vient juste du fait qu'on se reconnaît. C'est l'identification qui a fait que Bref a fonctionné. C'est jouer putain, moi aussi, quand je mange de la cannelle, je fais comme ça. Je pense que c'est juste ça. Et deuxième chose, c'est la pression qu'on a au réseau à poster des trucs tout le temps en partageant, c'est le fait que moi il y a un truc qui me gonfle, c'est si je l'ai pas posté ça n'existe pas. Par exemple, j'aime le hentai, OK? J'ai des potes qui aiment ça et qui en parlent tout le temps sur internet. sur Twitter, sur Instagram. Alors, ils sont à des conventions, les trucs.
Hentai, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la vie sexuelle des pieuvres en milieu japonais.
Japonais, avec des femmes, hein, parce que voilà. Et du coup, voilà, mettons ça, ou n'importe quel autre domaine. Les séries, j'en sais rien. Mettons que j'en parle, moi j'en parle jamais, parce que j'en parle à mes amis, enfin, j'ai pas besoin de flooder les gens là-dessus. Eh ben, les gens qui vont en parler tout le temps, on va savoir qu'ils aiment ça.
Oui.
Bon, on va me dire, ah putain, t'aimes les séries, mais je savais pas. Bref, hein, c'est si, j'en bouffe tout le temps, quoi. Mais t'en parles jamais. Du coup, tu partages pas, ça n'existe pas. C'est ça, moi, le truc de notre génération, c'est que voilà, tu n'en parles pas, ça n'a pas existé. Donc, tu dois prouver aux gens que t'étais vraiment au concert de Drake, quoi, tu vois. Ouais. Genre, putain, moi aussi, j'y étais. Mais ouais. Vas-y, prouve-le. Bah ouais, j'ai fait un Instagram. Et ça, c'est un truc, je trouve, la pression vient vraiment de ça.
Point de vue intéressant,
je suis d'accord avec ça.
Ah, attendez, silence, Daz va dire, je suis d'accord.
Non, je suis d'accord. Parce que c'est un. Non, mais. Mais arrêtez enfin ce procès d'intention.
C'est toi qui mets des procès d'intention.
Absolument pas. Moi, pour moi, vous êtes tous des gogoles et c'est pas. Mais je vous en veux pas, par contre. Je vous respecte en tant qu'être humain.
Ton amitié me fait chaud au cœur, Daz.
Non, mais enfin, je trouve que effectivement le point de Nora était super intéressant.
C'est-à-dire qu'au-delà même de savoir si tu fais de la win ou pas de la win, t'es obligé de parler pour exister en fait. T'es obligé de rentrer dans une course parce que sinon t'es.
C'est pas une lose globale, quoi.
D'accord.
C'est pas une lose individuelle, c'est une lose globale de. On a créé cette pression tous ensemble.
Il y a quelqu'un derrière toi qui voudrait aussi prendre la parole, une jeune fille au fond. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, moi je voulais dire que personnellement, l'été, je passe 3 mois totalement déconnectée. Merci la fac et merci, je viens de la région tiers-monde français. Et c'est vrai qu'en septembre, je poste les photos que j'ai prises pendant l'été et je rattrape le retard. Et c'est vrai que je me sens...
Tu floudes tes contacts avec plein de photos ?
Oui, beaucoup. Je fais des gros albums, mais j'ai tendance à beaucoup faire ça parce que je le fais pas sur le moment, parce qu'effectivement, j'ai l'impression de profiter de rien de ce que je fais si je suis connecté, mais je le fais après.
C'est un vrai calcul, quoi. Là, c'est pour le coup.
Non, c'est qu'elle veut pas y toucher avant. Il y a le côté peut-être Jedi pendant l'été, puis à la rentrée, il y a le côté fils qui reprend. Et
à la limite, je peux excuser les gens qui nous imposent leurs photos de vacances. Non, mais. Attention, non, mais.
Les gens. Tu es trop bon, Daz. Vous êtes trop bon, mon maître.
C'est pas ce que je voulais dire. Je peux comprendre, en fait, les gens qui partagent dans l'instant. C'est-à-dire, ah, oh, c'est trop beau, je le prends en photo. Moi, ça me crispe, mais je peux comprendre qu'on le fasse. Mais du coup, pour moi, il y a carrément un plan média encore plus gros à dire. Je le prends pour plus tard et je ferai un album en rentrant à la maison, quoi. C'est du calcul,
c'est du bon management.
Le fait de calculer permet de justement pas poster des choses inintéressantes tous les jours.
Et il y a de la condescendance en plus. c'est magnifique. Je me retrouve enfin dans cette personne.
Clash ou pas clash. Allez, c'est la fin de cette chronique. On peut applaudir l'équipe de Fibre, l'équipe jaune. Alors, nos 4 chroniqueurs sont passés avec grand succès. Je vous félicite. Hein,
on est un peu chaud,
je vous jure sur notre tête qu'ils ne connaissaient pas les sujets et qu'ils ont essayé de par tous les moyens de les faire liker, mais on a tenu. En tout cas, on a largement débordé et du coup, on va sonner la fin de ce premier 404. Et vous, on espère que vous avez beaucoup apprécié nous suivre sur les internets. On peut encore applaudir très très fort Sylvain, Mélissa, Fibre, Daz. On peut applaudir, s'il vous plaît, James au cadrage, Eric à la réalisation, Vincent de la gaieté lyrique, Justin, notre réalisateur, Al et MJ, nos voix, et bien sûr, on vous applaudit, vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes tous des winners et des losers pour avoir participé. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain peut-être à la gaieté lyrique, toujours en live total, j'espère, avec d'autres sujets, d'autres chroniques. On aura eu le temps de bien affiner les choses, en tout cas. Mais si, on va refaire ça en live. Et en tout cas, merci en tout cas de nous avoir suivis sur internet via les réseaux, via le stream de la gaieté lyrique. On se retrouve nous en VOD sur les YouTube, sur le SoundCloud. Et maintenant, pour ceux qui sont là, on se retrouve au bistrot. On va boire de l'alcool et s'échanger nos cartes de visite. Wouhou ! Allez, ciao !
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.